Les 5 plus 5 voitures à conduire absolument avant de mourir. Alors pas 100, pas 50, mais 10. Ouais. 10 voitures Erwan qui nous font dire « Ok, c'est donc pour ça qu'on fait tout ça ». Le principe est simple, 5 chacun, les miennes, les tiennes. Forcément, ce sera pas les plus chères, je pense. Ce sera pas forcément les plus rapides non plus. Mais ça va être celles qui comptent vraiment.
C'est ça.
Et comme d'habitude, on va pas être d'accord.
Oui, c'est certain. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est différent comme approche de, tu sais, du garage de rêve. Tu sais, du garage de rêve de 5 bagnoles.
C'est pas pareil.
C'est pas du tout la même chose.
Non.
Parce que là, en tout cas, moi, les voitures que j'ai choisies, c'est des voitures qu'il faut, à mon sens, enfin, dont il faut, à mon sens, faire l'expérience parce que ça représente, si l'automobile était un monument, ça serait un des piliers. J'ai sorti cette phrase comme ça sans café.
Ça démarre fort.
C'est waouh.
C'est bien. Tu vas compenser moi qui ai la voix enrouée et une tête tête dans le cul parce que mon bébé est malade. Je compte plus le nombre de nuits où je dors pas correctement.
Voilà. On comparait tout à l'heure nos niveaux de fatigue avec Alex et moi je disais que j'étais fatigué parce que j'avais fait une randonnée et Alex me dit je suis fatigué parce que j'ai pas dormi parce que mon bébé dort pas.
Ouais voilà.
On est pas dans les mêmes.
Ce sont des tranches de vie différentes. Bonjour, je suis Alex Wagner de la chaîne. Je sais même plus dire ma chaîne YouTube.
De la chaîne.
L'ingénieur décrypte. Je suis avec Erwan TGD de la chaîne Erwan TGD.
Bah oui, pareil.
Tu vois, je suis perdu.
Ça a toujours pas changé. Oula, il va falloir que
et on est accompagné par notre sponsor Car Vertical qui rend cet épisode possible. Donc on les remercie.
Absolument. Merci Car Vertical et merci à vous toujours d'être de plus en plus nombreux et de participer à la fois aux écoutes et aux commentaires. Dans la section des commentaires. Waouh, je me suis perdu dans ma phrase encore. Il y a des hauts et des bas déjà dans ce.
Tu m'en rassures.
En fait, mon capital intellectuel s'est effacé avec la phrase stylée que j'ai sortie avant. Non, mais merci pour vos questions dans les commentaires. Et si jamais, évidemment, vous avez d'autres questions à nous poser, on y répond dans chaque podcast en précédant votre commentaire de la mention question.
Oui.
Voilà.
J'ai envie de dire honneur aux jeunes.
Honneur aux jeunes.
Ah, et j'ai demandé à Erwan qu'on en prépare 7 chacun. Parce
oui,
que
moi j'en ai 7.
Il est possible. Ouais, moi aussi j'en ai 7. Mmh. Il est possible qu'on ait des doublons, on va voir.
Oui.
Moi je crois pas. Je crois qu'on va être pas sur les mêmes époques, déjà.
Je pense effectivement qu'on sera pas sur les mêmes époques. Mmh. Mais, moi en fait, je vais commencer avec un truc obvious, mais qui va forcément lancer quelque chose.
Vas-y, je sais.
C'est la meilleure représentation de ce que c'est qu'une voiture sans artifice, c'est la Caterham.
Ah ben non, mais je l'ai dans ma liste.
Bah oui, normal. C'est pas possible de pas citer une Caterham.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que la Caterham, même si on oublie, alors je sais qu'il y a des gens à qui ça parle pas du tout parce que c'est moche, c'est inconfortable, c'est machin, etc. Mais
j'en faisais partie.
Oui.
Si on monte 10 ans en arrière, c'était juste pas sur mon radar.
Mais en général, les gens ne s'y intéressent pas parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils se disent ah, une petite voiture mignonne, etc.
Ouais.
Et la dernière anecdote que j'ai par rapport à ça, je tournais une vidéo sur la Caterham 485R, donc la finale édition, donc les toutes dernières avec le moteur 2 litres 3 Duratec, 240 chevaux, boîte 5, etc.
Et oui, 485, c'est le
rapport
c'est les puissance. Chevaux par tonne.
Chevaux par tonne, exactement.
Ah, ouais, ouais. C'est ça.
Donc tu divises toujours par deux pour connaître la puissance d'une Caterham. Tu prends le nom du modèle, tu le divises par deux. Si c'est une R300, ça fait 150 chevaux.
Ouais.
Si c'est une 620R, ça fait 310 à peu près. Une 170, ça fait la moitié de 170. Voilà.
Ouais.
85. Et donc j'étais avec Damien, mon cadreur, mon vidéaste. Pour lui, tu vois, ça lui parlait pas du tout. Lui, il était plutôt habitué aux voitures plutôt puissantes. Il roule en Ford Mustang moderne. Il est plutôt habitué aux BMW, trucs comme ça. Et on filme, il me voit faire des travers partout sur le circuit, etc. Et il me dit, vas-y, viens, emmène-moi faire un tour. Je l'emmène faire un tour. Bon, faut savoir que Damien fait 2 mètres. Donc, moi, je fais 1m91 et lui, 2 mètres dans une Caterham.
À la paire.
S'il souriait, il avait des mouches collées sur les dents. Et je l'ai emmené. Et il était scotché.
Donc, il était passager.
Il était passager, ouais. Il était passager et il était scotché parce qu'il m'a dit mais jamais j'aurais pensé que ça marchait aussi fort et que t'avais autant de sensations et il m'a dit et lui est motard, il m'a dit en fait on dirait une moto.
Ah, en plus il est motard.
Ouais, en plus il est motard, il m'a dit mais en fait on dirait une moto dans la manière dont t'en prends dans la gueule quoi. Et en plus la 240 chevaux dans une Caterham, c'est quand même impressionnant. Et il m'a dit tout de suite, il m'a dit mais c'est incroyable la légèreté, la manière dont c'est dont c'est nerveux, dont ça change de direction, l'accélération, le freinage. Il m'a dit, en fait, tu prends tout dans la gueule à, ouais, à Mach 12. Et pour moi, une Caterham, c'est ça.
Ça, ça fait envie.
Une Caterham, c'est justement cette absence totale d'artifice. On est rendu au truc le plus basique possible sur une voiture, avec quand même de la performance, ce qui en fait une pure machine de conduite. Et pour moi, c'est la meilleure expression possible, un peu hardcore, je l'admets, de l'automobile plaisir.
Bah, c'est pour ça qu'elle est sur ma liste aussi. C'est l'expression la plus pure dans mon imaginaire, hein, parce que c'est une grosse lacune, j'en ai jamais conduit une. L'expression la plus pure de la conduite, c'est-à-dire ce qu'on peut approcher de connecter les roues et le moteur à son cerveau.
Ah bah là oui. Ouais. Puis là, à ton dos, à tes fesses, à tes bras, t'as pas d'aide, t'as pas d'ABS, t'as pas de SP, t'as pas de direction assistée, t'as un pont ouvert ou un autobloc, ça dépend, mais c'est vraiment, t'es assis complètement sur le train arrière, c'est un châssis, c'est un petit châssis tubulaire, enfin ouais. c'est un kart quoi le truc. Et
ça doit être un peu de la télépathie de conduire ça. Tu penses rentrer dans le virage et la voiture rentre.
Oui. Et surtout, c'est extrêmement facile à conduire. Et c'est extrêmement facile à exploiter.
Bah ouais.
Parce que poids plume. Et surtout, en général sur les Caterham, t'as des trains avant qui sont directs, mais pas ultra directs. C'est-à-dire que la voiture, elle vit quand même, tu vois. Il y a un peu de souplesse, il y a un peu de roulis naturel, et donc tu sens très, vu que tu fais complètement corps avec la voiture, parce que t'es allongé dans ta baignoire en aluminium, en fait, et que t'as les coudes. Bah, tu vois, c'est littéralement le châssis de la voiture qui te tient en tant que siège.
Ouais.
C'est-à-dire que ton corps est calé entre le tunnel central de transmission et le côté de la voiture. Du coup, tu fais tellement corps avec la bagnole que tu sens absolument tout ce qui se passe. Et la voiture a un roulis naturel. C'est pas surprenant, par exemple, même quand ça part, tu vois.
Oui.
Et aussi l'avantage, c'est qu'une Caterham, c'est tellement léger que si tu fais un tête à queue même à haute vitesse, tu fous ton pied sur les freins, tu t'arrêtes 5 mètres plus tard.
Trop bien.
Bah, parce qu'en fait, en fait, t'as pas d'inertie.
Y a pas d'inertie. Ouais.
Donc, et pour moi, ça fait partie de ces qu'on aime ou pas, et on peut détester le fait que ça soit complètement ouvert, qu'on soit exposé, que ça soit difficile de rentrer dedans, d'en sortir, etc. Mais si on veut calibrer un peu son cerveau pour comprendre l'étendue de ce que c'est que l'automobile, et encore l'étendue, c'est un grand mot parce que ça pourrait aller des années 10 aux années actuelles, mais en tout cas dans ce que représente la légèreté dans la voiture de sport, je pense que ça fait vraiment partie du mythe. Et puis bon, c'est la base, c'est comme la Lotus 7, Colin Chapman, Light is Right et compagnie.
Ouais, ouais.
Donc pour moi, ça fait partie des monuments de l'automobile dont il faut faire l'expérience parce que c'est unique. En fait, c'est pas explicable autrement, ça ressemble à rien d'autre, c'est unique et pour moi, il faut l'essayer pour comprendre pourquoi est-ce que des gens peuvent aimer ça.
Je compte bien essayer avant de mourir et ma crainte, Erwan, c'est que si je l'essaye, il va falloir que j'en achète une. Tu crois que je pourrais résister ?
Non.
Ouais, ouais.
Bah moi c'est pas compliqué, je me suis toujours dit que ça avait l'air génial.
Ouais.
Et le jour où j'ai commencé à conduire des Caterham en faisant de la compète, bah en fait c'était signé dans ma tête, je me suis dit voilà, un jour j'aurai une Caterham. Et ouais. D'ailleurs je le dis très souvent, dans mon garage final de manière raisonnable, il y a une Caterham.
Ouais.
Avant tout le reste, avant une Porsche, avant une Aston Martin, avant une BMW M, avant ce genre de truc, il y a une Caterham.
Ouais.
Si je devais avoir une voiture de sport, ce serait une Caterham.
Faut peut-être que j'essaye assez bientôt, parce que j'ai peur d'essayer, tu vois, quand j'aurai 65 ans, et de me dire, putain, mais quelle connerie, j'ai jeté ma vie à la poubelle, parce que j'ai découvert ça que maintenant.
Ben, après, ce qui est, ouais. Pour moi, c'est tellement unique, et tu vois, à la fois, on peut se dire que que ça sert à rien, parce que, mine de rien, une Caterham, ça coûte quand même cher. Aujourd'hui, une Caterham un peu sympa, c'est vite 35, 40 000 euros, quoi. Ça coûte très cher.
Oui, si ce n'est que c'est une mobilisation de capital, parce que ça déprécie pas.
Jamais. Toutes les Caterham ont fait de la piste.
Ouais.
Toutes les Caterham ont eu des moteurs différents, ont été modifiés, améliorés, machin, etc. Ça vaut toujours le même prix.
Donc c'est
effectivement une valeur sûre.
Ouais.
Alors, je pense pas que ce soit le marché le plus dynamique du monde, mais il y a une communauté de gens qui cherchent des Caterham. Et une communauté.
Elles sont souvent volants à droite en France?
Non.
Non, il y a des volants à gauche.
Oh non, on a plein de
ouais.
volants à gauche.
Okay.
Bah, en fait, pour avoir visité l'usine Caterham, alors je sais pas si c'était pareil à l'époque, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça. Quand tu vois les châssis être montés, quand tu vois les châssis être montés, t'as des trous de chaque côté.
Ah oui.
Pour la colonne de direction.
Ah, c'est déjà prêt pour les deux.
Ouais, c'est déjà prêt pour les deux. Et en fait, ils choisissent juste en fonction de la commande et en fonction de où part la voiture, bah où est-ce qu'ils mettent le volant.
Ouais, nickel.
Voilà, donc t'as les deux. Et je sais que faire le swap, c'est comme une Lotus. Une Lotus, c'est pareil. T'as déjà les perçages de colonne de direction sur les caisses.
Bon à savoir. Je passe à la mienne.
Vas-y.
Porsche 911 série F. Alors là, on est sur ce qu'on appelle un capot long. Donc jusqu'en 74, donc début des années 70, un peu n'importe quel moteur, mais ça se savoure le mieux en version un peu hot rodée. Alors à partir d'une 2 litres 2S ou une 2 litres 4S, et souvent elles sont montées avec des 3 litres préparés, injection mécanique ou carbu, peu importe. J'ai cité ça parce que pour moi, il y a plusieurs raisons. C'est la bonne école, c'est-à-dire si tu peux conduire fort, emmener fort une 911 du début des années 70 un peu hot rodée, c'est qu'ensuite tu peux conduire n'importe quoi, déjà. Et ensuite, bah c'est la recette de voiture de sport parce qu'elle est agile, elle est communicative, elle est prévisible et elle apporte des sensations. Et le côté prévisible, je voulais insister là-dessus parce que dans l'imaginaire populaire, une 911 des années 70, c'est hyper casse-gueule. Alors qu'en réalité, toi, t'as déjà de l'expérience dedans?
Bah, je suis en train de réfléchir. Une 2.7 RS, c'est quelle année?
73.
Bah voilà.
On est en plein dedans.
Bah, ma seule expérience d'une 911 comme ça, c'est une 2.7 RS.
Tu l'as balade?
Fort.
Ouais.
Ouais, c'était dans le cadre d'une vente aux enchères il y a quelques années à Monaco.
Ouais.
Et c'était une rouge. Donc c'était une Touring. Mmh. 2.7 RS Touring. Elle était rouge, déco blanche.
Ouais.
Et je l'ai monté. On avait filmé une vidéo avec Pierre. On était monté à la Turbie.
Ouais.
Et j'avais vraiment pu rouler avec pas mal.
Alors, raconte.
Bah en fait, look extraordinaire. Et en fait, ce qui m'avait marqué surtout, c'était parce que c'est pas très puissant. Ça fait 200 chevaux, je crois. Un truc comme ça.
Ouais, 210, je crois.
Ouais, ça, quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est le feeling de légèreté.
Oui.
Parce qu'en fait, t'as un moteur qui est assez coupleux. Du coup qui emmène toujours la voiture avec du rythme et en fait tu peux garder un rythme de fou. Alors il faut t'as un peu des mouvements à décomposer quand même, il faut tu vois la boîte etc. Tu fais quand même un talon point propre, tu fais attention au transfert de charge etc. Mais mine de rien, même par rapport au transfert de charge, en ayant en tête que t'as un sac à dos parce que c'est une 911, la voiture est hyper dynamique.
Ouais.
Et tu peux garder un rythme de fou tout le temps. Et dans une ambiance avec un son de voiture de course, quoi.
Mais complètement. Mm. J'ai fait une semaine de conduite organisée dans les Alpes. Dans un groupe de Britanniques, on était 12 voitures. Et j'étais là avec une 2 litres 4S, mais modifiée en RS 3 litres de 74. Préparée à peu près 260 chevaux. Un peu moins d'une tonne. Et je tenais n'importe quelle machine moderne.
Oui.
Il y avait des Ferrari modernes, il y avait des Lambeau Gallardo, des 911 modernes. Mais grâce au manque d'inertie et l'agilité et surtout la capacité de rouler jusqu'aux limites de la voiture, parce que tellement elle est prévenante et prévisible.
Ouais.
Ça fait pas des coups de pute, les 911, quand on a à peu près assimilé le mode d'emploi.
Faut assimiler le mode d'emploi, quand même.
C'est pour ça que je dis c'est la bonne école.
Je trouve que ça fait plus de coups de pute, moi, sur les voitures, modernes et plus lourdes. Et en même temps, je dis ça. Mais c'est vrai que, en fait, oui, c'est pour moi, c'est vraiment une question de mode d'emploi, quoi.
Oui.
Mais le truc, c'est que le mode d'emploi.
Mais il est pas compliqué, hein.
Ben non, mais tu sais quoi, j'ai une anecdote. J'étais au Nürburgring avec des potes il y a 4 ans, je pense, et on avait un de nos copains qui venait de s'acheter une Type G, une SC.
Ouais.
Donc 3 litres.
Donc les années 80.
Ouais, années 80, très belle SC, blanche, machin, etc. Et il part faire des tours du Nürb.
Ouais.
Zéro expérience, hein. Enfin, ouais. peu d'expérience visiblement de conduite, pas d'expérience du Nürb. Et il s'est tapé un tête à queue, mais je crois que j'étais en passager. J'arrive plus à savoir si j'étais en passager avec lui ou si j'ai vu la vidéo. Mais en fait, il mettait des coups de volant sur sa voiture, et t'avais vraiment, tu sais, des lâchers de gaz au milieu des virages, des grosses réaccélérations, des trucs comme ça, et il a perdu la voiture. Il a fait un tête à queue, il est allé se faxer le long de la barrière. Genre, il a rien touché. Ouf. Et il est reparti. Mais quand il m'a montré la vidéo, il s'était clairement pas rendu compte de ce qui s'était passé.
Ouais.
Et en fait, c'est dans un virage au Nürb, où c'est un virage qui s'appelle le miss-hit-miss. Donc en fait, c'est un triple droit, où il y a beaucoup de vitesse, et tu vois, c'est vraiment un virage, c'est comme ce virage, enfin c'est comme des, il faut s'imaginer n'importe quel virage long où il faut vraiment garder la voiture stable au maximum. Et donc il vaut mieux avoir une vitesse d'entrée modérée et garder, tu vois, l'accélérateur tout du long sans déstabiliser la voiture, parce qu'il y a beaucoup d'appui, il y a beaucoup de force centrifuge qui t'emmène.
Le double gauche à Spa.
Oui, même principe, que celui qui descend là, c'est à lui que je pensais. Ouais. Même chose, tu vois. Tu peux pas, si t'as tellement d'appui et tellement de vitesse que si tu lâches les gaz, déjà faut que tu sois prêt à contrebraquer. Et en fait, lui, tu vois, il est arrivé avec trop de vitesse, il a mis un grand coup de volant pour rentrer, donc la voiture elle a commencé à s'ouvrir un peu.
Bah oui.
Et vu qu'elle a commencé à s'ouvrir, et donc il rentre en sous-virage vite, et là il lâche les gaz. Ah bah alors là, donc la voiture, wouh, tête à queue immédiat. Et juste après, il m'a dit, mais est-ce que tu peux me montrer, prends ma bagnole et je fais un tour en passager avec toi. Et moi j'étais un peu inquiet, tu vois, parce que je me suis dit, bon, ça reste une vieille 911, etc.
Non.
Et en fait, ça s'est fait hyper bien.
Bah oui.
Mais il m'a dit, putain, je suis bluffé comment tu conduis souplement.
Ouais.
Et je lui ai dit, bah mec, t'as pas le choix avec ça.
Ouais.
Je lui ai dit, tu faut freiner droit. Quand tu rentres, tu rentres, mais il vaut mieux avoir trop freiné que tout ça. Et bref, je lui ai expliqué le mode d'emploi. Et effectivement, il m'a dit, bah ouais, je savais pas que ça se conduisait comme ça. Mais il a failli exploser sa caisse.
Oui.
Et donc,
quand je disais c'est la bonne école, c'est une voiture qui peut se conduire soit parce qu'on a assimilé le mode d'emploi, soit au moins on est dans l'étape qui s'appelle conscious incompetence, incompétence consciente, c'est-à-dire on sait qu'on est débutant, mais c'est très dangereux pour quelqu'un qui a l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire il est incompétent et il ne le sait pas encore, parce qu'il se dit bah moi je suis un mec, les pilotes c'est des mecs, bon c'est une voiture.
Oui, c'est clair. Et puis, mais c'est vrai que, parce que j'ai forcément réfléchi à la 911, et c'est vrai que je me suis dit, s'il devait y avoir une 911 qui représentait parfaitement toutes les 911, je pense que c'est la 2 litres 7 RS.
Bah ouais, je suis d'accord.
Parce que c'est la forme la plus reconnaissable. Pour moi, c'est une des plus belles parce que c'est hyper étroit, etc. C'est léger. C'est pas trop puissant, relativement facile à conduire, mais l'ambiance et le dynamisme est absolument unique.
Ouais.
Et ça serait ça ou une Type G? Pas pour les mêmes raisons, mais la Type G, parce que je trouve que la 2 litres 7 RS, on est quand même dans une, c'est une vraie voiture de sport, tu vois. C'est l'équivalent d'une RS aujourd'hui.
Bah oui.
Alors qu'une, tu vois, une Type G, une Type G, 3 litres ou 3 litres 2.
Bah, une Type G, c'est un délit, hein.
Bah, voilà. On est déjà plus dans cette philosophie de voiture cossue, de voiture un peu luxueuse.
Ouais.
Et qui garde quand même le charme de la vraie 911 avec la forme, le moteur, tout ça, quoi. Mais, s'il devait y avoir une 911 moderne.
Ah, refroidie par eau?
Ouais.
Oh bah c'est forcément une GT3 et pour moi ça va être parmi les premières.
96 GT3.
Oui, alors moi c'est ma préférée. Après on peut discuter et pinailler si c'est la phase 1 ou la phase 2.
Ouais. Ça.
Objectivement, ce serait une phase 2. C'est la première de Andreas Pröninger.
Ouais. Parce que on est allé à Monaco là vendredi dernier pour aller au Grand Prix et on était avec la.
Ah t'as des choses pour les news.
Ah, j'ai plein de trucs pour une.
C'est bien, j'ai pas grand chose, moi.
Et on était dans la 96 GT3 de Louis Xavier, phase 1. Donc, pince de crabe.
La rouge?
La rouge.
Ah, ouais, top.
Et en fait, c'est fou comme c'est déjà moderne. Comme caisse.
Ah, mais oui.
C'est comme ta 996.
Ah, mais non.
C'est une vraie voiture moderne.
C'est déjà ce que je voulais dire au chapitre de la série F des années 70. C'est hallucinant comme c'est moderne. C'est-à-dire, c'est grâce à cette modernité qu'on peut tenir une Gallardo sur un col alpin.
Ah bah,
pour
large.
Son époque,
large.
C'est ouf, ouais. Comme ça fait tout bien. Et c'est une voiture qu'on peut emmener faire des longs road trips, on peut attaquer sur un col, on peut l'utiliser en daily si c'est pas une RS. C'est hallucinant de polyvalence.
Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a fait des tours de Monaco.
Ouais.
De nuit avec la 96 GT3, genre à 1h30 du mat.
Ouais.
Et on se demandait si on allait avoir des pouces, des trucs, ouais, etc. Parce qu'on était au milieu des Ferrari, des machins et tout. Le nombre de mecs qui gueulaient, ouais, trop belle et
bah,
tout.
Ouais, ouais.
Incroyable. Et genre, et vraiment, on était bluffés, mais le nombre de mecs qui disaient, ouais, j'étais trois phases un et tout. Et genre, on était les rois du pétrole. Alors que dans la rue,
ouais,
c'était le vendredi soir du Grand Prix de Monaco, là. Enfin, du Grand Prix historique.
Oui.
Dans la rue, t'avais Daytona SP3. On a vu la Ferrari. On a vu deux Veyron.
Ouais.
On a vu deux Veyron décapotés, les deux, des grands sports. Ouais. Incroyable.
Ah oui.
Et nous, on était en 96 GT3 et les mecs, genre, quand ils nous voyaient arriver, on voyait des bouches qui s'ouvraient, quoi. C'était trop cool. Mais, ouais.
Bah, sans caisse de puriste.
Ouais.
Il n'y a pas une once de frime là-dedans.
Non, vraiment pas.
Non.
Et c'est vrai que ça, c'est assez cool. Et pour rester dans du purisme, pour moi, donc je pense qu'on a bien le chapitre.
Oui,
chapitre 911.
Je pense, ouais.
Difficile de ne pas parler de la marque au cheval cabré. Mais j'ai mis pas mal de temps à essayer de savoir quelle Ferrari je choisirais.
Et je suis curieux.
Et découvrir. Ouais. Et pour moi, la Ferrari qui m'a le plus marqué, les Ferrari d'ailleurs qui m'ont le plus marqué, c'est les Ferrari, on va dire modernes. Donc des années 90 à 2015, en gros, c'est ce que je considère comme moderne.
Ouais.
Avec des boîtes simples ou double embrayage, V8 Atmo en position centrale arrière.
Okay.
Pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, parce qu'en fait, c'est des voitures qui sont assez faciles à conduire. Contrairement, par exemple, je pense à une F12 ou une 599 ou une 550 ou une 515, qui sont des autos assez impressionnantes par le gabarit, etc. Parce que le V12, mine de rien, c'est particulier parce que c'est des voitures très coupleuses où t'as un vrai mode d'emploi.
Mmh.
Alors qu'une, par exemple, une 458 Italia ou une 430 Scuderia, même une 360, mais je dirais plus une 430 Scuderia, ça serait mon choix final, je pense. C'est des caisses. En fait, c'est pareil, quand tu rentres dedans, il y a peu de voitures qui crient autant je suis une voiture de course italienne pour la route que ça.
Okay.
L'ambiance, les baquets, le volant avec les boutons, les palettes en carbone, le sol sans moquette avec l'alu, un truc qui m'a toujours marqué dans les 430 Scuderia, c'est que t'as tellement pas d'insonorisant à l'intérieur, t'as tellement pas de moquette, donc tout est en carbone ou en alu, que lorsque t'ouvres la porte, le siège semble rifté,
oui,
au milieu d'une baignoire.
Oui,
et
oui,
en fait, t'as un espace entre l'accroche du siège au sol et le seuil de porte.
Mm-hmm.
Et t'as vraiment l'impression qu'il y avait rien. Poum, ils ont mis un siège, terminé, bonsoir.
Mm-hmm.
Mais d'une manière différente d'une voiture normale. Enfin, tu vois que le siège il est posé au milieu, mais t'as des moquettes, etc. Donc ça, tu vois, ça c'est moins impressionnant. Là, t'as littéralement rien.
Mm-hmm.
Boum, un siège.
Ouais.
Et le juste pour le son que ça fait. Le look que ça, la sensation de puissance, mais en même temps de légèreté, les à-coups que tu te prends dans la nuque avec les passages de boîte, etc. Le son de Formule 1, le fait que ça soit vraiment une caisse, même tu vois, t'as un mythe autour de ça, développé par Michael Schumacher, y a tout un univers où tu te dis, s'il y a une caisse qui devait représenter, genre, Ferrari à son pic, tu vois, Ferrari à la Formule 1, etc. En tout cas, pour moi, de ma génération, je pense que c'est ça, c'est la 430 Scuderia. Et parce que j'en ai conduit plusieurs fois des 430 Scuderia, c'est la première Ferrari... Non, c'est la première ou deuxième? Je crois que c'est la première Ferrari que j'ai conduite de ma vie.
Ah oui?
Ouais.
T'as démarré fort.
Et la deuxième, c'était une spéciale.
Ah oui, c'est bon ça.
Mais la spéciale, je me suis fait peur. Mais c'était parce que c'était sur circuit. Mais la 430 Scuderia, c'est un truc, en fait... Je repense souvent à ce truc j'ai des copains qui ont bossé chez McLaren pour le renouveau de McLaren, qui était chef de projet de la 12C, de la P1, etc.
Mmh.
Et qui m'ont toujours dit que leur plus gros problème, au moment où ils ont sorti la 12C,
ouais,
c'est que Ferrari a sorti la 458.
Ouais,
parce que la 458, c'était une voiture, déjà c'est une voiture sublime.
Ouais.
Tu t'assieds dedans, tu démarres, tu fais 3 accélérations, t'as envie de l'acheter.
Ouais.
Alors que la McLaren, c'était une voiture qui était faite pour être vendue via un essai long terme, parce que c'est une voiture qui est pleine de nuances, qui est très capable, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus performante, mais aussi une voiture qui est très facile à vivre.
Mmh.
Alors qu'en fait, quand tu démarres une Ferrari de ces années-là, en fait, tu démarres une F1, quoi.
Ouais.
Et c'est pareil avec la... Alors, j'ai pas essayé de... J'ai essayé une 355 ? Si, j'ai essayé une 355. La 355, j'ai même entendu des gens dire que c'était un peu les mêmes sensations qu'une F50. Tellement c'est comme les, j'ai entendu des gens dire ça dans un podcast il y a pas longtemps, c'était Schmi d'ailleurs qui disait ça.
Mmh.
Il disait que c'était en sensation et en émotion finalement une baby F50. Et même la 355, c'est une bonne bonne Ferrari comme truc à essayer, tu vois, comme son de fou, comme ligne extraordinaire, comme
c'est un bon étalon, ouais.
Ouais, peut-être même plus que parce que pour la boîte manuelle.
Bah t'as la grille.
La grille. Ben, je dirais peut-être plus 355, ouais.
Et forcément, je serais d'accord avec toi.
Mais, t'en as eu une en plus, non? T'as une 348.
J'ai une 348, oui. J'ai fait le choix de l'Outsider. J'avais le budget pour acheter une 355. J'ai voulu une 348 parce que plus pure, moins d'assistance, direction non assistée, plus communicative, une boîte moins facile.
Mm.
J'ai pas regretté mon choix, mais ouais, 355, je peux comprendre.
Mm. Mais ouais, le truc avec Ferrari, c'est une marque qui est immédiatement liée à beaucoup d'émotions. Quand on parle de Ferrari, il y a de l'émotion, il y a les victoires en compétition, il y a le son des voitures, le son des F1. Voilà, c'est une marque qui
il y a 70 ans d'histoire, c'est incomparable.
D'histoire.
C'est la seule marque qui a participé en Formule 1 en continu depuis le début, la seule.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est une histoire qui est au sens littéral du terme monumentale.
Oui.
Ferrari, c'est monumental, c'est un monument, je pense que tu dis Ferrari au fin fond de l'Inde, les gens savent ce que c'est.
En effet.
Alors que tu parles de McLaren, personne ne sait, tu vois. Et c'est pas une comparaison pour dire que l'un est mieux que l'autre, mais Ferrari, c'est monumental. Et moi, j'associe les voitures Ferrari au frisson. Il faut que quand tu t'assieds dans la caisse, tu vraiment, t'es les poils qui se hérissent, quoi. Et donc, pour moi, la 355, ouais, ou une 430 Scuderia, si on veut être dans quelque chose de plus moderne, vraiment plus performance, ces deux autos, je pense, qui correspondent parfaitement à cet état d'esprit et à justement ce, parmi toutes les nuances de l'automobile, Ferrari, c'est censé faire ça.
Ouais.
Et pour moi, ces voitures-là le représentent bien.
Eh ben, je suis allé lorgner du côté des italiennes et Ferrari en particulier. Mais avec une approche différente et une saveur tout à fait différente, Erwan.
Oui.
Ce qu'il faut faire, je le recommande pour l'avoir vécu avant de mourir, c'est conduire une supercar de l'old school, de la vieille école. Donc on n'est pas forcément chez Ferrari, on peut l'être. Moi je l'ai vécu dans une 512 TR, mais une Diablo, voire même une Murcielago en manuel, ça ferait pareil. Et l'expérience à faire, c'est pas du tout attaquer sur des petites routes, ça on peut le faire mieux avec la 911 série F que j'ai décrite juste avant. C'est de se mettre à un pas de marche, ou peut-être 20 km par heure, Erwan, enclencher la 4, faire piéton sur une longue ligne droite, et attendre. Et faire attention aux sensations, sonores en particulier, c'est-à-dire toutes les petites nuances que le moteur va émettre comme sonorité lors de sa montée de régime. Ça va commencer doucement dans les graves. Petit à petit, il y a des sifflements qui rentrent dans l'orchestre. Après, dans les moyens régimes, il y a comme des violons qui arrivent. Et la poussée commence à devenir de plus en plus franche. C'est un peu comme une tidal wave, comme on dit, un tsunami. Quand on arrive vers 4000 tours, le tsunami commence à débarquer. Et ça va de plus en plus fort, et il y a de plus en plus d'aigus stridents, comme s'il y avait des cuivrés qui rentraient. Et donc, on profite d'une allonge, d'une façon qui est totalement unique dans le monde automobile. Une allonge qu'on peut tirer de 20 à l'heure jusqu'à, en quatrième, dans une 512 TR, quand on est à fond, on est à quoi, 220, quelque chose comme ça. J'en sais rien, peut-être plus.
C'est vrai que...
C'est inimitable.
Je suis assez d'accord, alors... Moi, en Testarossa, j'ai conduit qu'une Testarossa. J'ai pas conduit j'aimerais beaucoup essayer une 512M. Mm. Il paraît que c'est ouf. Il paraît que ça n'a rien à voir. Il paraît que parce que le moteur, il paraît que le moteur est beaucoup plus enfin s'envole beaucoup plus.
Je pense que c'est assez différent, ouais.
T'as la direction, t'as une direction assistée sur la 512M, donc
exceptionnel.
Il paraît que c'est puis t'as ces espèces de jantes turbines là sur la 512M qui sont sublimissimes, je trouve. Mais moi j'ai eu la même expérience dans une Diablo.
Ah bah qu'est-ce que je disais, c'est la même chose.
Et en fait c'était intéressant parce que c'était marrant, je sortais d'un essai de 911R, j'étais chez Asphalt Classics à Égalière, donc Tobias qui gère ça, qui est un magasin extraordinaire, enfin un vendeur de caisses extraordinaire, et je faisais un essai de 911R qui est sur ma chaîne YouTube, et il me dit bah viens on va déjeuner, il me dit tu veux qu'on prenne un truc que t'as jamais essayé ou quoi, et je lui dis est-ce qu'on peut prendre la Diablo, il me dit ouais grave. Donc le chef mécano va faire un tour avec la Diablo pour voir si tout va bien, etc. On part avec la Diablo, donc c'était une Diablo phase 1, donc propulsion,
ouais.
Et d'après lui effectivement c'est les meilleurs parce que les quatre roues motrices ont un train avant qui est très lourd. Et il me dit tu vas voir ça c'est extraordinaire. Alors moi je un peu impressionné quand même parce que c'est une Diablo, le truc c'est gigantesque, c'est large.
La phase 1 c'est intimidant.
Ouais, puis même, je sais pas.
Elle est lourde de direction, non, parce qu'elle a pas la DA qui est venue avec la VT.
Eh ben, ouais, mais la VT, c'est une 4 roues motrices.
Oui, en effet. Mais elle a la DA. Il y a les deux.
Eh ben, c'est lourd, mais c'est pas trop lourd.
Ok.
Et donc, elle était noire intérieure, rouge quartier. Oh. Déjà, moi, j'adore.
Oh là là, la config.
Je suis obligé d'enlever mes chaussures pour conduire. Parce qu'en fait, il y a pas la place au pédalier. Ah, ouais. Donc je conduis en chaussettes, quoi.
Tu chausses du combien?
45.
Ouais.
Mais en fait, il y a pas la place, parce que les pédales sont très fines.
Okay.
Tu t'installes là-dedans. Tobias, il fait 1m95. Moi, je fais 1m91. Donc, on a tous les deux la tête de travers, si tu veux, pour voilà.
Ouais.
Et en fait, déjà, quand tu regardes une Diablo, ou même une Murcielago, ou une Aventador de profil, ce que j'adore, et c'est pareil avec une Zonda, par exemple, t'as 70% de la voiture qui est sur l'arrière, qui est derrière toi, et 30% sur l'avant.
Ouais.
Et en fait, moi, j'ai vraiment cette image de mec qui est attaché à une fusée. Oui. C'est qu'en fait, tout est derrière toi. Et du coup, dans la Diablo, t'as ça. Et je commence à partir. Alors effectivement, c'est impressionnant le gabarit. C'est très très large. Ouais. Dans les rétroviseurs, tu vois rien à part les ailes. C'est immense, tu prends toute la route, en plus, on était sur les petites routes, on avait 15 kilomètres à faire pour aller déjeuner. Donc, dès que tu croises une voiture, tu serres les fesses parce qu'en fait, t'as l'impression que t'es à droite, mais en fait, t'as déjà les roues dehors. Mm. Donc, faut éviter de taper. Enfin, c'est assez intimidant. Et effectivement, à un moment, je me dis, putain, c'est marrant, la voiture, une fois que t'es lancé, elle est plutôt cool à conduire, tu vois. Mm. Elle est assez pointue, elle paraît assez posée. Et effectivement, il m'a dit, il y a un moment, il y a une ligne droite, il m'a dit, tu vas te mettre en 3.
Mmh.
Tu te mets à 1500 tours minute.
Ah, bah, c'est ça.
Et tu fous pied tôle.
Voilà.
Et effectivement.
Ouais.
Même là, en parlant, j'en ai des émotions parce que tu fous pied tôle. Ça réagit immédiatement, mais tu sais, tu sens que ça réagit. Mais t'as d'abord cette inertie, c'est comme si tu sentais, tu sais, les gros pistons, tu sais, qui se mettent en branle, qui partent, etc. Donc, la voiture commence à prendre de la vitesse.
Oui.
Quand tu regardes le compteur, ça pousse pas encore fort, mais ça prend déjà beaucoup de vitesse.
Ouais.
Parce qu'en fait, t'as un couple de tracteurs.
Ouais. C'est plein partout.
Et ensuite, t'arrives à 4000 tours. Ouais. Et là, t'as un espèce de bruit d'admission.
Ouais.
Mais qui prend tout l'habitacle. Et ça fait comme si t'avais, tu sais, je sais pas, des turbulences, tu sais, des ondes de choc sonore qui tapaient un peu les tympans, tu vois, tu sais, ça prend l'habitacle, mais un truc de fou, et ça s'envole.
Ouais.
Et en fait, la manière dont ça s'envole, c'est hyper impressionnant parce que ça fait un peu plus de 400 chevaux, je crois, un truc comme ça.
Juste en dessous de 500.
Ouais, c'est ça, c'est juste en dessous de 500.
Ça doit faire 490 et quelques dans ces eaux-là.
Et en fait, les rapports sont très longs.
Oui, ça fait partie du trip.
Et ça fait partie du trip.
Ah, mais c'est une des seules bagnoles, ce genre de bagnole, où je mettrais pas un pont court, pour le coup.
Ah, bah, ça fait partie du trip. Il faut pas. Et en fait, ça
l'allonge.
Ça s'envole, mais c'est vraiment cette sensation de poussée d'Airbus qui décolle, quoi.
C'est ça.
T'es à l'avant, et tout va très très vite, et en même temps, t'as la conscience de la taille de la voiture.
Mm.
La conscience de la vitesse qui monte, la conscience que bah si jamais il se passe quoi que ce soit en face, ne serait-ce qu'une voiture qui arrive en face, t'es sur une petite route, faut anticiper parce que le freinage, c'est particulier, le gabarit, le machin, etc. Et ça va tellement vite.
Ouais.
Et t'es tellement genre impressionné par la puissance de la poussée et la puissance générale du bordel que genre vraiment, je suis resté. Waouh, tu vois, je me suis dit.
C'est animal, viscéral.
Vraiment, je me suis dit, c'est incroyable. Et, et évidemment, bah t'arrives là-dedans au resto. Alors déjà, il y a un cérémonial parce que bah t'ouvres la porte en ciseaux,
et oui.
Tu sors tes chaussures. Chaussures du bord de la porte, tu te retournes et tu dis merde, je suis arrivé en diablo quoi.
Oui.
Et en fait, et tu vois, et j'en discutais avec lui au déjeuner parce que ça m'a vraiment choqué. Et je me suis, et tu vois, il me disait ça c'est une voiture, ça coûte 350 000 €. Il m'a dit c'est assez fiable. Il m'a dit t'as pas trop de merde, faut les rouler de temps en temps. Mmh. Et en fait, je lui ai dit mais dans une collection pour quelqu'un qui a de multiples autos,
ouais.
Au même titre qu'une Dodge Viper, par exemple, ça a sa place.
Ah ouais.
Ça a sa place comme espèce de Madeleine de Proust,
ouais.
De machin que tu sors ou tu te réveilles un matin et tu te dis, je sais pas, aujourd'hui je me sens des couilles poussées, aujourd'hui je roule la Diablo, tu vois. Et l'expérience en fait quand tu sors de ça, t'es dans un autre monde quoi.
Et encore, tu l'as vécu sur des petites routes provençales,
ouais.
C'est pas son élément.
Non, mais c'est étonnamment, c'est étonnamment dynamique.
Ah oui.
Et il m'a dit, ça c'est très spécifique à la phase 1 qui est propulsion, parce que la 4 roues motrices paraît beaucoup plus impressionnante parce que le train avant est très lourd même à haute vitesse, parce que tu sens que t'emmènes cette inertie un peu des roues motrices et tout le bazar qu'il y a à l'avant, alors que la propulsion est plus légère de l'avant, du coup elle tourne beaucoup mieux.
Ouais.
Et du coup il m'a dit qu'à conduire c'était la meilleure. J'ai
à sortir
adoré.
Sur par exemple la route Napoléon. Des longs virages rapides reliés par des lignes droites, ou alors dans un usage GT, partir en week-end avec sa femme, mais c'est super.
Ouais, alors je sais pas si je partirai en week-end en Diablo.
C'est vrai.
Je
t'assure que partir en week-end en 512.
Alors en 512 beaucoup plus.
Ah, tu fais une grosse diff.
Ouais. Je pense que en fait le truc c'est que la Diablo, ce qui est quand même,
parce qu'on voit rien.
Ah mais tu vois rien. Ouais. Genre le gabarit.
512 TR, on voit.
C'est ça, la 512 TR, c'est vraiment une voiture de voyage.
Ouais, ouais.
Alors que la Diablo, tu sais pas, c'est un truc, c'est fait.
Ouais.
La Diablo, c'est très Lamborghini en fait, c'est Lamborghini.
Oui.
C'est, ils se disent bah voilà, en fait on a fait pareil mais à notre sauce,
ouais.
Tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui représente très bien Lamborghini, c'est-à-dire que Lamborghini, dans la plupart des voitures Lamborghini, t'as un peu une perte de sens.
Ah mais c'est glorieusement idiot.
Ah mais c'est très bien résumé. Glorieusement idiot.
Et on peut pas dire ça d'une 512 TR.
Non,
du tout.
Parce qu'une une 512 TR, t'as encore du bon sens, même à la sauce Ferrari.
Non mais le coffre avant est énorme sur une 512 TR.
Oui, oui.
C'est souple, ça fait tout bien. On peut voir qui vient derrière, ce qui est à votre devant.
Mais c'est d'ailleurs ce qui représente très bien Lamborghini, c'est que c'est glorieusement débile.
Ouais.
Et d'ailleurs, qu'on aime ou pas Lamborghini, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Lamborghini a quand même une, parce que dans ma liste, il y a pas une voiture en particulier, mais il y a Lamborghini.
Mmh.
Parce que pour moi, Lamborghini, c'est une marque, et je parle pas des Lamborghini modernes. Quoique l'Aventador.
Ah, c'est où la frontière?
Murcielago. Ça s'arrête.
Ah, oui.
C'est tout ce qui est avant Murcielago.
Mais
Aventador comprise. Aventador compris.
Moi non.
Eh bah c'est en fait le truc c'est que c'est pas une question d'aimer ou pas, mais l'Aventador ça reprend pour moi c'est la suite de la lignée Lamborghini, c'est-à-dire que c'est l'interprétation moderne de ce qu'a toujours été Lamborghini, un truc qui est fantastique à regarder, qu'on aime ou pas. C'est juste l'Aventador c'est un objet.
Oui.
Tu vois une Aventador c'est une des supercars les plus marquantes de la génération des supercars modernes. L'Aventador, ça a existé pendant 15 ans,
c'est pas dispo en boîte manuelle.
Non, ça a jamais existé en boîte manuelle.
Bon bah merci, au revoir.
Ouais, mais
Non.
Non mais je sais. Non mais je sais bien. Mais en fait, l'Aventador, le truc c'est que il faut pas prendre ça comme une voiture qu'on va aimer ou pas. Il faut prendre ça comme une expérience où t'en sors et tu vas te dire OK. Les mecs, c'est glorieusement idiot. C'est, et y a pas d'autre manière de le dire. C'est glorieusement débile. Et c'est ça qui fait l'Aventador. Et c'est pour ça que moi, j'adore Lamborghini. J'aime pas l'image.
Ah, j'ai beaucoup d'affection pour Lamborghini.
Mais j'adore Lamborghini,
ouais.
Moi. J'adore cette marque parce que, en fait, les mecs, ils sont restés incroyablement fidèles à eux-mêmes depuis le début.
Ouais.
Qu'on
ouais.
aime ou qu'on aime pas la marque. Alors,
ouais,
c'est vrai qu'il y a Lamborghini, c'est attaché à une image de...
C'est quoi l'imagerie pour toi? Parce que dans ma tête, c'est les gros offshore de compétition motorisés par le V12 en version 8 litres.
Tu parles des bateaux Lamborghini,
bien sûr, en compétition offshore, waouh.
Oui, mais moi, pour moi, aujourd'hui, l'image moderne de Lamborghini, c'est une image de joueur de foot, quoi. Et je dis pas ça contre les joueurs de foot, j'en ai rien à, je m'en fous, c'est juste que c'est ce que ça représente, c'est une image qui est très bling bling.
Bah ouais,
c'est une image qui est difficile à assumer. Mm. Mais je reconnais à Lamborghini une patte vraiment unique.
Ouais.
Qui m'attire beaucoup moins dans les Lamborghini modernes. En fait, à partir du moment où ils ont mis des boîtes double embrayage, alors, ça a été génial pour Lamborghini parce qu'ils ont pu vendre beaucoup plus de voitures, parce que c'est des voitures qui sont plus utilisables. La Huracan, c'est une super caisse. Mmh. Si tu veux vraiment une expérience qui te cloue au sol, tu conduis une Huracan, c'est génial. Ça se conduit comme une Audi TT, et t'as un V10 derrière. Bon, jusque-là, très bien, tu vois. Mais pour moi, la Lamborghini vraiment V12, à moitié inconduisible, mais ce qui la rend géniale, justement, ça a quelque chose, mais tu l'as dit, c'est glorieux en fait. Mm. C'est absolument glorieux autant que c'est idiot.
Complètement.
Et ça, c'est vraiment une expérience à faire. Moi, je suis extrêmement attaché à l'Aventador parce que je trouve ça stupidissime. Mais tu vois, dans un cadre où je me dis j'aurais une collection de fous, alors que pourtant on se dirait jamais Rouen n'y roulerait en Aventador, ça me traverserait l'esprit.
Ouais. Tu m'as fait vibrer avec ton récit sur la Diablo noire. Cuir rouge.
Ça fait partie des. Ça fait partie des. En vrai, le.
Ça me donne juste envie de gagner plus d'argent, putain.
Ouais. Et d'ailleurs, alors pour clôturer l'anecdote sur la Diablo, quand le matin, moi, je partais avec la 911R et j'ai dit et Tobias me dit, bah, tout à l'heure, on va aller déjeuner. Est-ce que tu veux prendre une autre voiture? Et j'ai dit, bah, il m'a dit, est-ce que tu veux essayer la Diablo? Je dis, bah, je suis chaud.
Ouais.
Du coup, le chef mécano, pendant que moi, je suis parti essayer la 911R et la filmer, le chef mécano est parti avec la Diablo pour l'essayer sur les routes. Et j'étais en train de rentrer vers le garage. Et d'un coup, donc j'étais en 911R. Déjà cool.
Ouais.
Et d'un coup, dans mon rétro, je vois la Diablo qui arrive à Mach 12. Et en fait, c'était le chef d'atelier qui testait la Diablo.
Ouais.
Et on était sur une route de fou. Et j'ai commencé, et le mec me collait au cul, tu vois.
Ouais.
Il pilote extrêmement bien.
Okay.
Moi, j'étais en 911R, donc je me dis, ouais,
oui.
je suis armé, tu vois.
Ça devrait aller.
Je te jure, je suis parti.
Ouais.
Genre, j'ai rentré une 2, je suis parti. Et pendant ce qui a semblé être 30 secondes, en réalité, je pense que ça a duré 6 ou 7 minutes, on a attaqué, mais comme des porcs, sur une route.
Ah ouais.
Et je te jure que la seule chose que je voyais dans mon rétroviseur central, c'était la Diablo dans toute sa largeur. C'est-à-dire que j'avais la largeur de la Diablo qui prenait tout mon rétro central collé à mon cul pendant 6-7 minutes d'arsouille.
Ouf.
Et c'était juste avant qu'on aille déjeuner et on arrive en même temps au garage. Et à ce moment-là, j'avais éteint les caméras.
Je pense qu'il pouvait faire ça parce que c'était la voiture suiveuse. Parce que ouvrir en Diablo, accroche-toi.
Ah, mais je te jure qu'il y avait du rythme. Et moi, j'étais en 911R. 911R, c'est une caisse qui pèse 1300 kilos, c'est une arme de guerre. Et je lui ai pas mis 10 mètres.
Et là.
Et en fait, on est arrivé au garage. Et je vais le voir, je lui dis, mais, je lui dis, mais d'où c'est dynamique comme ça, une Diablo? Il me dit, oh, j'avais de la marge. Et je te jure. Et je vais voir Tobias comme ça, je lui raconte. Et il me dit, mais mec, une Diablo, c'est incroyable. Je lui dis, une Diablo, si t'as les couilles de la pousser, il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, bon, faut avoir un coup de volant, mais c'est incroyable. Et juste après, je l'ai conduite, et effectivement, j'ai compris.
Wow.
Et ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont vraiment marqué, la Diablo.
Rarement une voiture aura aussi bien porté son nom que la Diablo, surtout en config noir intérieur rouge.
Ouais, puis c'est la bonne config.
Bah ouais.
C'est la Batmobile, en fait.
Bah oui.
C'est la voiture du méchant.
C'est la voiture du diable.
Bah ouais, c'est ça.
Alors, à toi.
J'ai l'impression d'avoir monopolisé la parole pendant.
C'est vrai qu'on a un peu tous les deux traité le sujet, mais c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas nous sortir comme voiture à conduire avant de mourir?
Alors, tu
passes difficilement après une 512 TR et une Diablo.
Bah en fait, le truc c'est que je vais rester un peu. En fait, moi je pars des voitures qui moi m'ont le plus marqué et ça va être un peu plus court, mais. Dans la catégorie des voitures glorieusement débiles, il y a la Dodge Viper.
Ouais.
J'adore la Dodge Viper.
Okay.
Parce que c'est glorieusement con, mais sauf que ça l'est encore plus parce que c'est américain. Et pour moi, dans la Dodge Viper, t'as un peu la même sensation que la Diablo. C'est-à-dire que t'as ce truc de... Alors c'est pareil, faut aimer le look, etc. Mais c'est pour ce que ça représente. Mais avec une autre philosophie, avec la philosophie américaine. Tu sais, les Italiens, ils ont fait la Diablo, je sais pas... Alors c'est super cliché, mais tu sais, ils font la Diablo avec un sourire en coin, en sachant un peu qu'ils font n'importe quoi, mais voilà. Les Américains, ils sont persuadés qu'ils sont en train de construire une fusée, tu vois. Mm-hmm. C'est super cliché ce que je raconte, mais tu sais, j'ai un peu...
C'est cliché pour une raison.
Mais c'est cliché pour une raison, tu vois. Tu sais, les Américains, je les vois vraiment dire... Hey Johnny, on va mettre un V10 dans une voiture de la taille d'une Mazda MX-5. Et fuck yeah, t'sais, delivering freedom. t'sais, tu vois. Et j'ai vraiment ce truc là, c'est du mec un peu allumé où t'as un peu de neurones qui se touchent là-haut sous un chapeau de cowboy et qui se dit bah, super, idée du siècle. Et puis t'sais avec cette notion de les virages, non pas intéressant, non, on va vers vraiment ligne droite. Et la Dodge Viper, ça représente un peu ça. Et j'adore la Dodge Viper parce que c'est un peu la même caractéristique que la Diablo. C'est une caisse que quand tu la conduis, t'es conscient à chaque instant que t'es dans une Dodge Viper.
Ouais.
T'es conscient de tout ce que ça représente, du moteur démesuré, de la tenue de route plutôt aléatoire, même si ça tient plutôt bien la route. C'est juste pareil, il y a un mode d'emploi. De la finition intérieure qui est strictement dégueulasse. De la dureté des commandes, du passage de boîte, il y a une ambiance dans une Viper, tu roules 3 minutes, si tu veux, la console centrale elle te brûle parce que en fait bah t'as la chaleur du moteur qui descend partout, t'as cette espèce d'énorme pommeau pour passer la vitesse avec la tige en aluminium, si tu touches la tige tu te brûles, c'est pareil, tu vois. Ça fait un son des enfers, c'est caverneux, ça marche une tonne. Pareil, t'as des rapports très longs avec un moteur qui décolle comme un avion. Ça freine pas si bien.
Oui,
ça bouge quand ça freine. Virage, tu le passes en te disant, putain, est-ce que je vais arriver au bout du virage? Mais ça le fait. Et c'est pareil, t'as cette espèce d'aura où tu sais, un peu comme dans la Diablo, mais pas pour les mêmes raisons. Tu sais constamment que t'es dans une Dodge Viper. Tu sais ce que ça représente. Ouais. Tu sais ce que ça représente aux yeux des gens. Et le truc, ça crie America, tu vois, comme ça à chaque fois.
C'est un cliché sur roue.
Mais c'est un pur cliché sur roue, sauf que l'atmosphère à l'intérieur de trucs complètement démesurés qui ne répond à aucun code logique. En fait, tu l'as en permanence et c'est ce qui fait l'excitation que t'as au volant de cette bagnole. C'est-à-dire que tu la conduis pas pour te dire je vais faire un chrono, tu la conduis pas pour te dire, tu la conduis pour te dire je conduis un truc idiot. Et c'est pas pour les mêmes raisons un peu lyriques, etc., que tu pourrais conduire une Ferrari ou une Lamborghini. Là, c'est les gros sabots, quoi.
Oh bah c'est pas glorieusement idiot, c'est juste idiot.
Oui, c'est juste idiot. Oui, non, c'est vrai qu'il y a un peu rien de glorieux.
Ben non.
parce que c'est vrai que la voiture italienne, elle fait ça avec un certain panache, tu vois.
Ah, il y a un raffinement.
Il y a un raffinement qui est et ça qui est marrant avec les voitures.
C'est une différence raffinée.
Oui, c'est ça, parce qu'en plus, tu sais, le raffinement, on pourrait dire que c'est... Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur les voitures anglaises et les voitures italiennes? Les voitures anglaises, elles sont...
Comment on avait dit ça?
Ah, c'était pas mal.
C'était l'excentrisme, on a dû dire, non?
Ouais, alors il y avait effectivement l'excentrisme. Et
oui, c'est ça, les voitures anglaises, c'est excentrique.
C'est excentrique.
Comme le peuple.
C'est ça. Et les voitures italiennes, c'est...
La panache.
C'est ça,
c'est le mot que tu as dit.
C'est le panache. La voiture américaine, c'est les deux en même temps, mais un peu mal fait.
Et sans une once de sophistication,
c'est ça,
ni de raffinement,
c'est ça,
ni même de tentative d'eux.
Non, non, y a pas. mais justement, c'est ça qui fait que c'est cool.
Ah, mais c'est assumé.
C'est
ouais.
Que c'est pareil là pour le coup, c'est glorieusement assumé.
Les voitures assumées, on est fan. Ouais.
En fait, c'est ça. Je pense que
elle essaye pas d'être ce qu'elle n'est pas.
C'est
et
ça.
Et ça, on peut respecter.
Mais et d'ailleurs, si on recoupe avec la Caterham, par exemple, c'est pareil.
Ah oui.
C'est moi ce que j'adore, c'est les voitures qui sont absolument assumées, qu'elles soient bien ou non.
Ah mais je crois que ça va être le fil rouge de toute cette discussion.
Oui.
Ça va être des voitures qui sont entières.
Ouais, c'est ça. Des voitures qui sont. Ben c'est ça en fait. Et moi les expériences qui m'ont le plus marqué, c'est ça. C'est des caisses qui sont entières, quel que soit la, quel que soit ce qu'elle représente.
Oui. Oui, c'est grâce aux voitures entières qu'on fait ce boulot, qu'on a cette passion. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est contre les petits crossovers modernes qui cherchent à faire tout avec compétence. Ce mot que je déteste.
Ben, c'est ça. Parce qu'au final, l'incompétence, ça, alors, ça peut être réellement incompétent et du coup être nul. Mais si c'est incompétent, mais avec un certain panache, c'est là où ça devient intéressant. Mmh. Et c'est là où on va trouver effectivement, ben, du charme. Quel qu'il soit, là, on a déjà cité plein de nuances différentes.
Parce que c'est pas fini.
Parce que tu peux pas comparer fondamentalement une Diablo et une Dodge Viper. Pourtant, il y a plein de choses qui se recoupent. Et c'est justement ce panache assumé avec des philosophies et même une culture du pays différente.
Ouais.
Que tu te dis, OK, là, il y a un truc, quoi.
Ah, ben, c'est la culture du pays turned up to 11.
Ben, c'est ça.
Mis sur 11. Ben, 11 sur 10.
Et du coup, pour moi, la Dodge Viper, c'est ça. Parce que j'ai rarement eu un feeling, qui te prend aux tripes que dans une Dodge Viper. J'adore cette caisse.
Eva, je vais passer sur une tonalité, une saveur de voiture complètement aux antipodes. T'as fini avec la Viper?
J'ai fini avec la Viper.
Il faut, les mecs, avant de mourir, conduire une voiture avec une admission guillotine. Alors, je m'explique. Normalement, une admission normale, c'est un papillon de gaz. C'est-à-dire, là, je fais le geste avec ma main, pour ceux qui écoutent, la main qui pivote de 90 degrés pour laisser passer les gaz. Bah, une admission guillotine, c'est totalement différent. C'est ma main qui coulisse horizontalement pour ouvrir le conduit d'admission. La différence que ça fait à l'usage... Alors, je vous donne d'abord des exemples. Erwan, toi, t'as dû vivre ça sur la M1 Procar.
Oui.
Admission guillotine.
Admission guillotine.
Moi, je l'ai vécu sur un moteur dérivé du M88 de la M1 Procar, puisque c'était sur le S14 de 2,5 litres de ma M3E30 préparé groupe A, qui sortait 265 chevaux dans ces eaux-là. Admission guillotine et Erwan, putain, je n'ai jamais vécu une... comment on dit throttle response, réponse à l'accélérateur. Mais c'est aiguisé, c'est coupant.
Ouais, c'est vrai.
C'est tout l'inverse de ce que j'avais, par exemple, sur ma 996 Turbo S, qui avait pourtant beaucoup plus de chevaux, 577 chevaux, mais où, à cause du turbo, c'était comme le mont Everest qui doucement commençait à s'écrouler et dans un torrent propulsait tout. Avec une admission guillotine, c'est sharp. Tu vois, c'est une lame de rasoir.
C'est hyper aiguisé.
Quand on met pied dedans et qu'on retire le pied et repied dedans, c'est j'ai du mal à vous le décrire mieux que ça, les mecs.
La meilleure manière de le décrire, parce que je l'ai vécu dans la M1 Procar, je pense que c'est, en fait, c'est tellement réactif que si tu roules sur une route bosselée, par exemple, avec la voiture, et que ça fait sautiller un peu la voiture, et que en conséquence, ton pied se balade un peu sur l'accélérateur, c'est l'enfer parce que ça fait
c'est ça.
Parce qu'en fait, tu t'arrives pas à garder le même appui exactement sur la pédale.
2 mm ça fait de différence de pédale d'accélérateur, ça change tout.
C'est ça.
Alors que si tu arrives sur une route bosselée avec une 996 Turbo S, rien à foutre. Mais tu peux faire des gros coups de gaz, ça fera rien.
Dans les voitures de course, même modernes, t'as beaucoup ça. Parce que et le meilleur moment pour le ressentir, c'est par exemple quand tu, même avec une boîte, pneumatique ou double embrayage ou je sais pas quoi, séquentielle, quand tu libères la voiture en embrayant en première, tu lâches l'embrayage. Alors déjà, c'est les embrayages de course, donc c'est très dur.
Ouais.
Donc faut réussir à mettre le parfait niveau, à équilibrer parfaitement l'embrayage que tu relâches, qui est très dur en plus, donc c'est difficile. Et les gaz. Et ensuite, quand tu pars, ça fait, mais c'est aussi parce que, fait, c'est une réaction en chaîne de ton pied qui bouge, une réponse à l'accélérateur qui est millimétrée. Et du coup, et le fait que la voiture tressaute, ça te fait bouger encore plus. Du coup, tout part en sucette, quoi.
Ouais.
Enfin, tout tremble. Et effectivement, sur la mission guillotine, sur la M1 Procar, c'était,
Le mot que j'utiliserais pour la fin, c'est que, le moteur était colérique sur ma E30 M3 Groupe A, mais je n'ai jamais vécu un moteur aussi colérique. Et ça, c'est jouissif.
Ben, en fait, ce que ça oblige à faire, souvent, tu me diras si t'es d'accord, c'est de rouler un rapport au-dessus, parce que t'as moins de réactivité. Alors par exemple, si tu veux, sauf si tu cravages vraiment, ouais. Mais si tu veux, si
ah bah oui oui,
si tu veux baisser un peu le rythme,
oui.
La meilleure manière de calmer un peu tout ça, c'est de rouler un rapport au-dessus pour avoir justement toujours de la
ah bah.
De la réponse, mais un peu moins de puissance qui te saute à, qui ah bah, saute à la gueule
tout,
parce que sinon
ah bah,
c'est
ah bah tout se calme direct sur ma Groupa. En dessous de 5000 tours, il y avait plus rien.
Oui, ça.
Donc
bah voilà.
tout est tout de suite plus calme.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Bah tu vois, et sur la réponse à l'accélérateur, moi, je parlais de la.
Et à 5000, t'avais une explosion.
Ouais, ça.
Mais tout d'un coup, mais c'était ouf, mais comme j'ai jamais vécu.
Ouais.
Et de 5 à 8, le niveau de colère incommensurable.
Bah, je sais pas comment est l'admission. Dans... Je sais pas si c'est des admissions guillotine sur les Honda. Je suis pas sûr.
Je sais pas. Je crois pas.
Je crois pas, mais t'as.
C'est vraiment des solutions de course.
Ouais.
Pourquoi? Parce que en part throttle, comment on dit, en ouvrant partiellement, quand t'as une admission guillotine, ça fait, c'est turbulent, ça marche pas bien.
Donc en fait, c'est
en
fait,
rétif, en fait.
Ouais, ok. Donc c'est piéto ou rien, quoi.
Ouais, ça, c'est tout ou rien.
Ouais. Mais c'est vrai que, alors, effectivement, le, pour en mettre même un peu plus sur ce que tu dis sur l'admission guillotine, conduire une voiture avec une admission très présente, c'est vraiment un truc à faire aussi.
Oui.
Parce que c'est une découverte.
Ah, mais c'est le niveau juste en dessous.
Ben, ouais. C'est une découverte que le bruit d'échappement n'est pas tout.
Bah, des ITB, Independent Throttle Body,
ah,
multi-papillon.
Oui.
Et là, Honda Type R, BMW M, les belles années, j'entends.
Ouais, bien sûr. Les Atmos, genre, par exemple, sur, M3 E30, M3 E36.
Les V8 Ferrari.
E46, ouais, V8 Ferrari. Merde, j'avais un autre truc en tête. Bon, tout ce qui est Honda, on l'a dit.
Bah, c'est tout ce qui va être extrêmement sportif.
Les Alfa Romeo.
Y compris sur route.
Les Alfa Romeo avec des ITB, etc.
Ouais.
Qui, où en fait, le premier truc qui remplit l'habitacle, c'est le bruit d'admission.
Oui.
Et d'ailleurs, on l'a déjà dit, mais moi, je préfère largement un bruit d'admission qui remplit l'habitacle qu'un bruit d'échappement qui embaume tout
ouais.
le voisinage, quoi.
Ouais, ouais.
Et
Tu fais bien d'en parler parce que l'effet que fait une admission guillotine, c'est comme si tu mettais des ITB, mais au carré.
Oui, donc c'est
ouf.
Ouais. c'est vrai que le bruit d'admission de la j'allais dire de la F1, mais c'est presque une bonne comparaison, mais de la M1 Procar.
Ouais.
Puis en plus la M1 Procar, ça prenait 9000 tours, il y avait une boîte courte, des straight cut gears, donc
des engrenages à coupe droite.
Des engrenages à coupe droite, donc
qui sifflent.
Genre c'est incroyable.
Ouais.
C'était fou ça.
Ouais.
Mais peut-être qu'on remercie Car Vertical
parce qu'on s'envole
dans nos trucs lyriques, mais
oui.
Rappeler quand même que c'est important de le préciser que Car Vertical est notre sponsor du podcast et que c'est grâce à eux qu'on peut vous produire des épisodes toutes les semaines. On rappelle évidemment le principe de Car Vertical, c'est de pouvoir avoir des informations sur l'historique d'une voiture en rentrant simplement son numéro de châssis ou sa plaque d'immatriculation sur Car Vertical, et ça va donner des informations en partant d'une immense base de données européenne qui sont liées aux assurances, etc., pour savoir si par exemple la voiture a été volée, quel a été son cheminement de vie, si elle a été importée, exportée, si le kilométrage a été faussé, s'il y a des dommages qui ont été recensés au cours de sa vie. C'est avant tout un outil, non pas de vérité absolue, mais un ajout pour vous donner des informations et vous permettre de peser le pour et le contre pour acheter ou non une voiture.
Oui, j'avais fait une fois le Car Vertical du 940.
Ah oui.
Alors malheureusement, c'était pas pour aller l'acheter. c'était dans ma vidéo de l'analyse de la série d'accidents de F40 qu'il y avait eu. Et en effet, qu'il y avait eu un accident, c'était une des F40 les plus kilométrées d'Europe. Je crois qu'elle avait fait 40 000 miles, donc 60 000 kilomètres à peu près, ce qui est beaucoup pour une F40. Donc c'est valable pour tous les types de voitures.
C'est ça. Donc vous avez 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical avec le code TGDALEX,
ouais.
qui s'affiche à l'écran et qui est dans la description. Plus vous utilisez ce code, plus ça nous soutient et plus ça nous permet de donner une longévité à ce podcast.
Oui.
Voilà.
Merci à vous.
N'hésitez pas.
Merci à Car Vertical.
Merci à Car Vertical.
Allez, à toi.
Attends, on fait un petit résumé. On a dit Caterham,
Lamborghini 911 série F.
911 série F.
355. Un supercar old school.
Ouais, Lamborghini.
La Viper.
Ouais.
Admission guillotine.
Admission guillotine. Ça fait 8 voitures. Ça fait 8 voitures et j'ai eu du mal à trouver d'autres choses. Parce que là, ce que j'ai cité, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Mais je vais quand même citer, parce qu'en fait, je suis un peu obligé, Aston Martin.
Mmh.
Non pas parce que... Alors,
il faut que tu précises, là, parce que Aston Martin, c'est large.
Aston Martin, c'est extrêmement large. Une voiture qui m'a énormément marqué, c'est la V12 Vantage. Alors, on reste un peu, c'est pareil, dans ce côté voiture... qui en fait un peu trop, pas qui en fait trop, mais
c'est quoi, c'est 2010 dans
ouais,
ce
c'est 2010, donc V12 Vantage, donc
boîte
c'est
manuelle, boîte 6,
boîte manuelle. Mmh. Donc c'est la Vantage moderne qui est à la base une voiture faite pour accueillir un V8,
ouais.
Dans laquelle ils ont collé le V12 de la DBS.
Mais quelle bonne idée.
Alors c'est objectivement une voiture qui est moins bonne, dans le sens moins dynamique et moins équilibrée que la V8 Vantage, parce que le V12 est évidemment beaucoup plus lourd. Mais c'est une voiture dont l'expérience de conduite est largement dominée par le moteur. Parce qu'un c'est un V12 qui prend des tours, c'est un V12 qui est coupleux comme c'est pas possible, dans un gabarit très réduit.
Ah, oh, ça doit être top, ça.
Ah, mais c'est, ce moteur, il est l'allonge et l'élasticité qu'a ce moteur, c'est extraordinaire. Avec une boîte manuelle,
ouais.
Manier un V12 avec une boîte manuelle, c'est toujours un truc.
Ah, toujours.
Et le tout dans un écrin de sophistication à l'anglaise, de qualité des matériaux, en fait, il y a une atmosphère dans une Aston Martin qui est, je trouve, extraordinaire. Alors, évidemment, on peut faire le rapprochement interminable avec James Bond.
Ouais.
Alors, avec des guillemets, mais tu sais quoi, j'en parle parce que hier j'étais un essai à Aston Martin. J'essayais la nouvelle DB12S.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pas le droit de dire ce que j'ai pensé de la voiture parce qu'il y a un embargo.
Mm-hmm.
Et au moment où ce podcast sortira, l'embargo sera pas levé. Mais j'ai discuté pas mal avec Dan, qui est le directeur marketing monde d'Aston Martin, qui est un pur passionné de bagnole. Je suis arrivé avec ta Fiat Panda 100 HP, il avait un sourire mais jusqu'aux oreilles. Il voulait que je l'emmène faire un tour. Et c'est pas une blague.
Ah, j'adore.
Et c'est pas une blague.
Bon esprit, le mec.
Et non mais le mec, c'est un vrai passionné, tu vois.
Ouais.
Et moi j'adore discuter avec ce mec. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, etc. Et vraiment, on discute comme là, on parle, tu vois. On était à la fin de la journée avec notre café et on partait sur des grands sujets, tu vois. Et je lui ai dit, est-ce que aujourd'hui, ça vous saoule encore d'être constamment associé à James Bond?
Ah tiens.
Et parce que c'est vrai, tu vois. Il m'a dit, attends, Erwan, c'est dingue. Tu l'avais pas mentionné de la journée, quoi. Et j'ai dit, je sais que, en fait, le truc, c'est que c'est le truc immédiat, tu vois.
Ouais.
Et il a dit un truc que j'ai trouvé intéressant. Il m'a dit, en fait, la raison pour laquelle on aime encore finalement cette association à James Bond, c'est parce que la raison pour laquelle on aime James Bond, c'est parce qu'il est imparfait. C'est parce qu'il est imparfait.
Ah oui.
Et que malgré tout.
Mais il est bourré de défauts.
James Bond.
James Bond, il est un peu sociopathique. Il a des névroses de malade.
Il est complètement sociopathe. Il joue avec les femmes comme c'est pas permis. Il tue des mecs au petit déjeuner. Tu vois. Et il y a ce côté. Mais pourtant, il est fascinant.
Et on adore
James Bond. Parce que c'est ce mec qui a un peu. En fait, il mixe. C'est un peu comme s'il mixait plein de cultures. Il a la classe à l'italienne, il a l'humour à l'anglais, il a un côté un peu bourru, alors qui est beaucoup plus apparu avec Daniel Craig dans les James Bond modernes, presque un peu à l'américaine. On lui pardonnerait presque tout alors que le mec est foncièrement insupportable.
Ouais.
Et il m'a dit finalement c'est un peu ça qu'on ressent quand on est au volant d'une Aston Martin. Ah. Et surtout James Bond. Il en fait trop, mais il essaie pas d'en faire trop. C'est-à-dire qu'il est un peu dans ce rôle.
Ah, c'est clair qu'il est pas try hard pour un sou.
C'est exactement ça.
Il est d'une nonchalance absolue.
Il
essaye pas, il fait.
Et il m'a dit, cette nonchalance, en gardant en tête tous les attributs qu'on a cités, c'est ce qu'on ressent quand on est au volant d'une Aston Martin. Quand on est au volant d'une Aston Martin, on n'essaie pas d'en faire trop. On sait dans quoi on est.
Ouais.
Les gens savent dans quoi on est.
Ouais.
Il y a une espèce de respect mutuel qui se crée. Il y a une connaissance de la marque, de ce que ça évoque, de la beauté du design, des proportions de la voiture, de la noblesse finalement du truc, avec un côté un peu bad boy qui pourrait être complètement contradictoire, mais qui finalement fait toute la finesse de l'expérience. Et il m'a répondu ça genre comme ça.
Ah non, mais j'adore.
Et en fait, j'ai dit, ben bah, putain, c'est vachement bien dit.
Mais oui.
Et
j'ai jamais vu ça comme
et
ça.
Et ben moi non plus. Et du coup, pour revenir.
Tu viens de me retourner la tête.
Et ben j'ai trouvé ça. Et tu vois, c'est un mec avec qui j'adore parler parce que quand on a des discussions, on part dans des trucs, mais genre c'est les discussions qu'on a là, tu vois.
Ouais.
Et j'adore parce que j'arrive à l'accaparer en général dans des discussions. Pendant que les autres journalistes lui disent « Oui, que pensez-vous de la conjoncture économique pour Aston Martin ?»
Ouais.
Moi, je suis là, je vais lui raconter mon dernier essai et on va le comparer à la dernière Aston Martin, tu vois. Et donc on discutait de ça, il m'a dit ça comme ça. Et pour moi, effectivement, tout ce qu'on vient de dire là, ça représente Aston Martin. Et en fait, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je pense que la marque que je désire le plus posséder, c'est une Aston Martin. Parce qu'il y a ce côté noble, il y a ce côté... élégant, classe, quand même un peu bad boy et rock'n'roll.
Oui, totalement.
Mais quand je conduis ça, j'ai pas besoin de m'excuser.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Il y a, alors que si tu conduis une Dodge Viper, ou une Lamborghini, ou un truc comme ça, tu vois, tu sais, il faut avoir le caractère pour l'assumer.
Bon, c'est la merde, Erwan. Tu me donnes envie de faire des petites annonces, de regarder où en est la cote d'une V8 Vantage boîte manuelle, par exemple.
Mais j'ai pas fait.
Je crois que
mon métier, c'est de parler de bagnole.
Tu comprends pas comment tu viens de me retourner la tête. Parce que avant que tu nous expliques cette analogie personnifiée, incarnée, mon a priori, c'était que quand je voyais un mec arriver en Aston Martin moderne, quand je dis moderne, c'est tout ce qui est post DB9,
ouais, à partir de 2007-8, quoi.
Ouais, voilà.
Post époque Jaguar, quoi.
Exactement. Quand je voyais un mec débarquer en Aston Martin, j'avais tout de suite un a priori négatif. C'est-à-dire, le mec, il a voulu s'acheter un peu de coolitude parce qu'il en manque. Et donc il part avec des points négatifs à mes yeux. Bah ouais. Là, ce que tu viens de me dire, je le vois plus pareil maintenant.
Et tu vois, moi c'est pour ça que je suis pas forcément un grand fan des Aston Martin, on va dire. Alors je vais dire classique avec des guillemets. Mais tu vois, par exemple une DB9, c'est une très belle voiture.
Ouais.
Ça m'excite pas des masses. Parce que on est dans
Le mec, il a 29 ans, une Aston classique pour lui, c'est une DB9. Ouais. Moi, les classiques, c'est les années 80. Les V8 coupés, oui,
non,
V8
pardon.
Vantage.
C'est pas dans ce sens-là que je voulais utiliser classique. C'est une Aston Martin de la gamme entre guillemets normale parce que je vais aller jusqu'au bout de mon propos, tu vas comprendre.
Okay.
Parce que moi, ce que j'aime justement chez Aston Martin, c'est le côté rock'n'roll que les voitures peuvent avoir. Et alors, j'ai pas fait l'expérience des V8 Vantage dont tu parles, donc des voitures des années 80 qui avaient un look un peu plus carré, un peu Mustang. Je mets des guillemets, mais ça évoque un peu ça.
Ah oui.
Qu'on retrouve d'ailleurs dans le design moderne des Valour, des Valiant, de la Victor précédemment, même de la Vulcan qui était cette version de piste là. Je connais moins ces Aston Martin des années 80, donc ça évoque moins de choses pour moi. Mais tu vois, là où une DB9 va pas forcément m'exciter, une V8 Vantage S, par exemple, en fait, n'importe quelle Aston Martin qui a été sportifiée, et justement qui va nourrir cette contradiction entre le côté très classe, très luxe, très Jaguar d'accord. ou Bentley, finalement, d'Aston Martin, ça me parle pas énormément. Mais par contre, tu vois, la DBS de James Bond... Tu vois, enfin du James Bond moderne.
Ouais.
Là, ça m'excite.
Ouais, ouais.
Et parce que justement, elle a ce côté. Oui, je suis une Aston Martin, mais je suis aussi une muscle car.
Ouais.
Et c'est comme James Bond finalement.
C'est ça.
Oui, c'est un mec en costume parfaitement parfaitement cintré, mais le mec, c'est aussi un énorme bad boy plein de défauts, tu vois.
Ouais.
Et moi, les Aston Martin que je préfère, c'est les Aston Martin où t'as un échappement qui fait du bruit, où t'as un setup châssis un peu nerveux, où t'as des matériaux un peu plus sportifs que luxueux, tu vois, de l'Alcantara, des trucs comme ça. Et pour moi, une Aston Martin, c'est une caisse, en tout cas, tu vois, sur les Vantage modernes ou les trucs comme ça, c'est une caisse que j'ai un peu envie d'attraper par la peau du cou, tu vois.
Ouais.
Mais où j'ai aussi envie mais dont j'ai aussi envie de sortir en pour aller dîner en costume croisé avec ma meuf, tu vois.
Ouais, totalement. Ouais.
Et vraiment, et ça m'a refait ça, tu vois, la semaine dernière, j'étais chez Moteur Essence et je me suis assis dans une V8 Vantage, là, qu'ils ont à vendre. Une 4 litres 7 boîte méca, de 2016. Donc, les toutes dernières versions avec les moteurs atmosphériques. Et je te jure, je me suis assis dedans. J'ai réglé ma position de conduite et ça m'a fait un truc. Genre vraiment, ça m'a pris au trip et je me suis dit, putain, mais il me faut ça, quoi. Vraiment, je te jure. Alors, je suis habitué à, je suis un peu désensibilisé, tu vois, à monter dans plein de caisses et tout. Et l'esprit, enfin, je sais pas, ce que dégage cette marque, surtout quand c'est pile dans les modèles qui me plaisent. Mais je me dis, il m'en faut une. Genre, et je pense que ça m'irait beaucoup trop bien.
Je crois qu'il faut qu'on gagne plus d'argent, Erwan.
Ça, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais donc, pour moi, Aston Martin, c'est ça. Et pour moi, prendre Aston Martin par ce côté, le mec, il essaie de prouver un truc, c'est pas la manière dont il faut le prendre, je pense. En tout cas, c'est ma vision.
Ah, mais tu m'as retourné la tête. C'est... Bravo. Alors, à moi. Et je suis étonné que tu l'aies pas encore cité. Il faut, les mecs, conduire avant de mourir une voiture sur slick.
Oui.
Hein? T'es d'accord?
C'est vrai. J'avais la voiture de course.
Ah oui, oui.
Ça se recoupe. Ouais, ça se recoupe. Mais effectivement, j'avais la voiture de course. Quelle qu'elle soit.
La raison pour laquelle j'ai dit voiture sur slick, c'est que quand on met des suspensions vraiment fermes, les réglages de géométrie qui vont bien et des slicks, bah déjà, une voiture de route, elle devient totalement autre chose. Je l'ai vécu pour la première fois, je l'ai déjà dit dans ce podcast, j'ai fait une journée de formation à l'école Propulsion, ça devait être dans début des années 2000, ils avaient des 964 RS, parce qu'à l'époque ça valait rien, c'était des track tools, et monté sur slick, c'était même des cups du coup, moi c'était des cups, mais cup et RS sur slick c'est la même chose. Ouais, parce qu'elles étaient vidées, des cups.
Ouais.
Mais ça m'a mis une gifle. C'est hallucinant les vitesses qu'on peut prendre en courbe, les jets qu'on peut prendre au freinage.
Ouais.
C'est un autre univers qu'il faut avoir vécu. Et je l'ai aussi vécu en passager cette fois. C'était dans une Alpha GTV6, donc les années 80, totalement coursifiée et donc sur slick. Mais en plus, elle avait un 3 litres 2, 24 soupapes au lieu du 2 litres 5, 12 soupapes qui est d'origine dans le GTV6. Et là, mais ça avionnait. Et plus que la musicalité du moteur, l'impression indélébile, c'était, mais j'hallucinais les vitesses de passage en courbe. Et pourtant, c'est un vieux châssis des années 80.
Ouais. C'est vrai que les slicks, c'est, moi, la première fois que j'ai conduit une voiture sur slick, j'étais terrifié parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre où était la limite.
Eh oui.
C'était terrifiant parce que je me disais, putain, mais ça va déjà tellement vite pour moi.
Ouais.
Ça allait déjà beaucoup trop vite pour mon cerveau, tu vois. Alors que j'étais même pas 60% de ce que la caisse pouvait faire. Et c'était une 991 phase 1 GT3 Cup.
Ouf.
Donc c'est déjà un sacré missile.
C'est une arme de guerre.
Sur le Castellet, j'avais jamais conduit de voiture de course de ma vie, j'avais jamais roulé sur le Castellet, je me suis chié dessus. Pardon pour l'expression, c'était terrifiant. C'était vraiment terrifiant.
Et intimidant, c'est pas le mot. Oui, c'est terrifiant.
Ah, c'est terrifiant. Ah, j'avais peur, vraiment c'était trop, le bruit, la vitesse, les vitesses de passage en courbe et tout. Mais c'est vrai que même la voiture de course en général. Et même, je pense que la meilleure expérience en voiture de course, c'est même pas au volant. C'est en passager. C'est en passager avec un pilote qui sait vraiment piloter.
Impossible.
Parce que pour moi, en fait, ça redéfinit ta notion de performance. Tu es là, t'as ta connaissance du truc, etc. Tu montes dans une voiture de course, tu te dis, ah oui d'accord, mais en fait j'ai rien connu avant, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que on entend souvent des pilotes dire que rouler vite sur route avec des voitures de route, ça les emmerde.
Ouais.
Parce qu'effectivement, tant que t'as pas fait l'expérience, même en passager, d'une voiture de course, tu ne sais pas ce que c'est que la performance.
C'est insoupçonnable.
Et j'ai eu la chance de faire des tours en passager dans plein de voitures de course différentes. Et à chaque fois, mais tu te prends une claque.
Ouais.
Déjà physiquement.
Ouais.
Tu fais 4-5 tours en passager dans une 911 Cup moderne avec un mec qui en voit vraiment.
Ouais.
Tu sors, tu es rincé. T'as mal au cou, t'as mal aux abdos.
Possiblement tu vomis.
Ouais, alors effectivement, ça peut arriver. Mais physiquement, Enfin, faut s'imaginer entre une voiture performante de route. Je sais pas, on va prendre une 911 et une 911 Cup sur piste. C'est la même différence que d'être assis sur la rangée 4F d'un Airbus Lambda et d'un coup monter dans un Mirage 2000.
Ouais. C'est ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Et effectivement, faire l'expérience, et ça, ça marche pour toutes les voitures.
Oui.
Ça peut être une vieille BMW de course, ça peut être une hypercar, ça peut être n'importe quoi. Tant que vous avez une caisse vidée avec un moteur optimisé et une vraie voiture de course.
Ah ben c'est pour ça que j'ai cité la GTV6 de course dans laquelle j'ai monté.
Ouais.
Mais l'expérience, tout y était.
Ouais.
C'était ouf.
Mais ça peut être même une mini de course.
Ah oui, oui.
Tu sais, les petites mini qui font 120, 130 chevaux pour 600 kilos, là.
On les voit à Goodwood lors du Revival.
Même une Caterham.
Ouais.
Monte dans une Caterham en passager, une 420R boîte séquentielle, 200 chevaux pour 500 kilos. Je te jure qu'au bout de 6 tours, tu demandes de t'arrêter, hein, quoi.
Ouais.
Parce que c'est tellement violent.
Oui.
C'est sur slick, ça t'arrache la gueule.
Ouais.
Et même pour aller plus loin dans la voiture de course de circuit, effectivement, moi, un truc qui a, là encore, transformé ma perception de ce que c'est que la performance, c'est de monter en passager dans une voiture de rallye.
Ouf.
Ça, alors moi, en l'occurrence, j'ai fait des tours en passager dans des voitures de rallye modernes, donc des vrais WRC. Mm. Et en fait, ce qui est fascinant, enfin en tout cas moi ce qui m'a fasciné, parce que je suis autiste, je vous le rappelle.
On est un peu tous ici.
On est un peu tous ici. En fait, c'est la capacité de la voiture à être performante dans des conditions tellement extrêmes que ça ne devrait pas l'être.
Ouais.
Donc la capacité de la voiture à freiner alors que la voiture et ne pas perdre le contrôle alors que la voiture est en appui mais dans des positions pas possibles. À garder le grip en toutes circonstances parce que t'as des suspensions et des pneus et un châssis qui est tellement développé qu'en fait même quand la caisse elle saute et que t'es, enfin moi j'ai pris des virages en drift en sautant en passager, donc t'imagines que tu rentres en virage, t'es en passager, tu rentres dans un virage, la voiture est en glisse des quatre roues, d'un coup la voiture décolle, donc t'es en l'air en travers, le mec est en full contre-braquage.
Oh là
tu te dis, c'est pas possible, on va jamais atterrir droit. La caisse atterrit, absorbe tout et repart comme si c'était rien passé.
Ah oui,
tu fais ça dans une voiture
un
de route.
Ah, c'est mort.
T'es foutu.
Ouais.
Et là, et c'est un niveau de performance qui est, mais tu comprends pas comment ça marche.
Mm.
Tu comprends pas comment ça passe. Et c'est pareil, tu vois, genre, tu vois les ornières arriver, tu vois les trous dans la route, tu brace, tu vois, tu te serres sur ton siège, tu te contractes parce que tu te dis, ouah, je vais me faire transpercer la colonne. Et c'est comme si t'étais sur un simulateur, tu sais, sur des vérins, tu sais, ça bouge à gauche, à droite,
oui,
etc.
Vois, oui.
Et tu regardes le compteur et t'es à 180 km/h entre les arbres et tu te fais pas du tout violenter dans la voiture.
Oh là là.
C'est incroyable.
Ah ouais, surréel. Ouais.
Et ça, c'est vraiment un truc genre... Et ça marche aussi avec les voitures de rallycross, parce que c'est assez équivalent. Mmh. Ou même des voitures... j'ai pu aller aussi dans des voitures du Dakar. J'ai été dans un Hilux du Dakar et aussi dans un Proto, donc le Proto Dacia Sandrider. Et c'est pareil. Tu vois les boss arriver, tu te dis, mais on va décoller.
Ouais.
Il se passe rien. Et le grip que la voiture garde en toutes circonstances, et la performance, et le rythme, et la... Tout, genre tu comprends pas. Genre c'est pour le cerveau, c'est incompréhensible de se dire mais bordel, comment ça passe. Et ça c'est un vrai truc dont il faut faire l'expérience, je pense.
Ouais.
En automobile.
Bah dans le même genre, j'ai mis sur ma liste et moi j'en ai pas l'expérience donc j'espère que toi oui, les monoplaces, t'as déjà essayé?
Ah ouais, c'est vrai que je l'ai pas mis dans ma liste mais ouais.
Ouais.
Ah ça m'a choqué.
Bah,
c'est
ouais.
Terrifiant.
Bah, c'est un peu l'a priori que j'en ai, si tu peux nous en dire plus.
Bah alors moi j'ai essayé une F4 sur merde, comment il s'appelle ce circuit? Un circuit qui est dans le sud là.
Le Ricard?
Non, un circuit qui est très vallonné, qui est dans le sud Val de Vienne.
Ah.
Circuit très difficile. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi impressionnant. Parce que...
Donc, dis-nous, ça pèse quoi? 500 kilos? C'est quoi comme moteur?
Alors, c'est un 4 cylindres qui fait...
C'est un Renault, non?
Je crois, ouais.
Je crois, hein.
Ça, donc, donc c'est une monoplace, boîte séquentielle, ça fait 200 chevaux, je pense que 220 ouais. chevaux, quelque chose comme ça.
Donc la fiche technique, elle paye pas de mine.
Non, mais sauf que ça pèse 450 kilos, quoi.
Oui.
Donc après, t'es allongé complètement, donc t'as les fesses qui sont plus basses que tes jambes, t'es vraiment dans ta baignoire de carbone, ouais. t'as la tête qui dépasse, enfin, moi, pour moi, un peu plus, parce que je suis grand, mais qui dépasse tout juste du cockpit, mais c'est très particulier parce que t'es complètement allongé. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est l'absence. En fait, t'as pas énormément, vu que la voiture est quand même très raide, t'as pas énormément de ressenti de ce qui se passe. C'est-à-dire que les changements de direction sont instantanés. T'as pas ce roulis un peu naturel qui peut t'aider à sentir la voiture vivre.
Ouais.
Là, c'est instantané. Du coup, c'est un peu comme un karting, en fait. C'est un peu on-off.
Ouais.
Du coup, quand tu changes de direction, même à haute vitesse, en fait, je sais pas, sur une voiture normale, tu vois, t'es dans un virage un peu rapide, un peu appuyé, tu vas mettre un peu plus de volant, ben voilà, tu vas sentir la voiture qui va peut-être s'affaisser un petit peu, qui va peut-être hésiter un peu avant de continuer à rentrer dans le virage. Là, il y a pas d'hésitation, c'est-à-dire tu tournes, ça tourne,
ouais.
et si tu tournes sans avoir le mode d'emploi, en n'ayant pas forcément le bon dosage au volant, pas forcément le bon dosage sur les freins, sur l'accélérateur ou quoi, c'est sentence, c'est sanction immédiate.
Ouais. Il y a pas de filtre.
Il y a pas de filtre. Il y a zéro filtre. Et en fait, et ce qui est très impressionnant aussi, surtout au Val de Vienne où c'est très vallonné, c'est qu'en fait t'es au ras de la route quoi. Enfin, il y a aucune voiture dans laquelle t'es aussi bas dans la route. Enfin, par rapport à la route, même dans une Caterham, t'as une position déjà de conduite qui est beaucoup plus assise, etc. Et là, en fait, ça te saute à la gueule d'une manière dont j'avais jamais fait l'expérience et j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant.
Ouais.
Genre vraiment physiquement, c'est très 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 impressionnant parce que même pour les yeux, ça va très vite. Ouais. Ça va très très vite et la limite est très difficile à trouver. Moi, je me souviens, il y avait plein de mecs qui roulaient au même stage que moi, ils étaient garés complets. Donc ils avançaient pas, mais pour eux ils avaient déjà l'impression d'aller extrêmement vite. Et moi, vu que j'ai de l'expérience de pilotage, j'allais quand même de plus en plus vite, mais ça te sautait tellement à la gueule que j'avais beaucoup de mal à être fin. Et j'avais beaucoup de mal à dépasser un peu mes limites parce que je sentais que si j'en faisais trop et pas bien, la sanction était immédiate. Et du coup, tu roules un peu avec cette épée de Damoclès de la sanction au-dessus de ta gueule. Honnêtement, franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais ça m'a fait peur. Les premiers tours de roue m'ont vraiment fait peur et il a vraiment fallu que je passe du temps à recalibrer mon cerveau.
J'imagine, c'est la version extrême du principe plus général qui est que plus les limites d'adhérence sont repoussées, plus ça va tendance à être brutal quand on va les dépasser.
Ouais. Et il y a aussi, c'est exactement ça, et il y a aussi ce truc de, en fait, les voitures, c'est comme un karting, requièrent une immense finesse au volant pour aller très vite.
Ouais.
Or, physiquement, tu te fais tellement brutaliser, c'est tellement impressionnant pour ton cerveau, que c'est difficile d'être relâché, d'être détendu pour avoir des gestes qui soient fluides pour justement servir la performance. Moi j'ai tendance à d'abord un peu surconduire, à être un peu violent sur les commandes quand je commence à aller vite. Et tu vois, à un moment, j'ai senti que je me mettais un peu le couteau entre les dents, tu vois. Et du coup, je me suis fait rappeler à l'ordre par le moniteur qui l'a vu, parce que je commençais à faire glisser la bagnole, etc. Pas volontairement, mais parce que je poussais les limites. Et il m'a dit, t'as pas besoin de faire ça. Juste, concentre-toi sur ton regard, concentre-toi sur ta trajectoire, etc. Reprends les basiques. Et tu verras que tu iras plus vite. Et j'ai gagné des secondes.
Oui, il doit y avoir une sorte de paradoxe d'avoir des gestes très précis dans un environnement qui est très brutal.
C'est comme essayer de coudre un truc très fin en étant dans une machine à laver.
Oui.
C'est difficile.
Ouais.
Voilà, je pense que s'il fallait le représenter comme ça, c'est ça. C'est essayer de. Ouais,
j'imagine.
T'essaies de faire de la dentelle en étant dans une machine à laver. C'est la même chose.
Est-ce que ouais bah oui c'est bien imagé. Est-ce que ce que j'imagine c'est vrai, c'est-à-dire il y a une sorte d'intuitivité dans la conduite du fait d'être en position centrale et de voir les roues avant.
Oui, et en même temps non, parce que tu dois regarder tellement loin devant que tu
Ah bah oui, bien sûr.
Tu évidemment. En fait, c'est comme si le premier plan, il était un peu flouté.
Ah bah oui.
Il faut regarder très loin. Il faut vraiment regarder très très loin parce que la voiture est tellement sensible à ce que tu lui demandes.
Ouais ouais.
Que justement, si tu regardes pas assez loin, tu vas avoir des gestes un peu trop saccadés et c'est là où tu vas perdre de la performance.
Bien sûr.
Donc ça demande un pilotage qui est une manière de conduire qui a des années-lumière de la manière dont on conduit sur route.
Ouais.
En fait, et je pense que c'est ça aussi qui est très impressionnant parce que même sur une voiture de course ou sur un circuit, si t'es un bon conducteur routier, tu peux trouver tes repères sur la piste.
Ouais.
Mais là, quand tu passes dans une monoplace, c'est exponentiel en fait la violence à laquelle les informations t'arrivent dans la gueule que c'est une autre manière de piloter. Ça, tu dois recalibrer ton cerveau et tant que t'es pas pilote professionnel, c'est une autre manière de faire et moi qui suis arrivé, tu vois, je le dis sans problème avec un peu de en me disant mais c'est bon, j'ai l'expérience, etc., ben je me suis pris une belle claque d'humilité, tu vois.
Oui.
Et dès les premiers tours, je me suis dit ça fait peur.
Ah, ça fait envie.
Ouais, non, c'est très cool à faire.
Excellent.
Parce que là encore, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas et j'ai trouvé ça génial.
Bon putain, encore une raison à Erwan pour gagner plus d'argent.
Ouais.
Il est fun cet épisode. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour là.
Ouais.
Je te propose, c'était super riche.
Grave, j'adorais.
Et ça m'a réveillé de dingue.
Ouais, moi aussi.
Je te propose qu'on passe aux news.
Oui.
T'as plus de news que moi cette semaine.
Ouais, j'ai plein de news. J'ai été au Grand Prix de, donc c'était cool. Je suis allé au Grand Prix historique de Monaco. Alors malheureusement, j'aurais aimé y rester tout le week-end, mais je pouvais pas. Donc j'y suis allé vendredi parce que journée gratuite et j'avais une opportunité avec des copains. D'y aller avec des copains. Donc on a pris deux voitures en partant d'Aix-en-Provence. On a pris deux copains, Kevin et Max, qui descendaient de Belgique avec leur Porsche 992 GT3 Touring, superbement optionné, tous les chromes, pare-choc avant peint, grise, donc argent GT, jante claire, donc voiture toute grise, vraiment sublimissime, intérieur. Exclusive manufacture avec les sièges marron Havane clair comme dans le Speedster. Comme dans le Speedster.
Ah non mais c'est le combo parfait.
Config puriste.
Ouais ouais ouais.
Kevin et Max, je crois qu'ils écoutent le podcast, je les salue, deux mecs adorables. Et on a pris en plus la GT3 Touring 996 de Louis Xavier. Mm-hmm. Donc on est parti, on a fait Aix-en-Provence, Saint-Raphaël par la route normale et Saint-Raphaël, Monaco que par les petites routes côtières.
Trop bien, magnifique.
Et Grand Prix de Monaco historique, génial, etc. Et surtout on a profité le soir de l'ambiance monégasque un peu qui vit l'automobile, tu vois.
Mm.
Donc dès que les rues rouvre après qu'elles aient été fermées toute la journée pour le circuit, tu te poses à un café et on a vu passer des caisses. La Ferrari, Daytona SP3, Bugatti Veyron, Grand Sport, décapoté, des Rolls-Royce, des Bentley. Il y avait un mec qui se baladait en Ferrari 250 millimilia. Donc une Ferrari des années...
50
même avant.
Fin 40,
je dirais.
Possible, ouais.
Fin 40, donc vraiment avec ce look de cigarette finalement, avec les quatre roues aux quatre coins de la voiture, quoi.
Fin 40, ouais.
Pour moi, c'est fin 40. Des voitures.
C'est unique au monde.
C'est unique au monde. Et le truc qui m'a le plus marqué dans tout ça, donc c'est génial, tu profites de l'ambiance, etc. C'est vraiment unique. Et quand on était sur la route, on arrivait à Monaco vers midi et d'un coup devant nous, il y a une Bugatti Veyron qui sort devant nous. Et je te jure, ça fait longtemps que j'ai pas été, mais genre émerveillé, abasourdi, excité en voyant une caisse sur la route.
Ouais.
Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une Bugatti Veyron.
Ah bah, ça m'est jamais arrivé.
Autre qu'en statique. J'en ai déjà vu rouler à basse vitesse, etc. Mais là, vraiment, la voiture qui sort devant nous.
C'est différent quand c'est dans la vie réelle.
Ah ouais. Et je m'y attendais pas, tu vois. Les mecs, Bugatti Veyron Grand Sport. Donc, décapoté.
Ouais.
Et le mec, il tapait des accels, etc. Et j'étais, mais, bouche bée. C'est comme si, je vais pas faire des comparaisons à la con, mais J'ai l'impression d'avoir vu Jésus débarquer sur Terre, quoi. Genre vraiment, c'est. En fait, j'avais l'impression d'un coup de voir un monument qui débarquait devant mes yeux et voir ça rouler sur la route sous le soleil dans la route qui est bordée par la mer qui descend vers Monaco. C'était une image de film.
Ah bah quand on parle d'icône, donc oui, c'est quasi religieux.
Ouais. Et beaucoup plus que tu vois le. Alors voir la Ferrari dans Monaco quand même ça. Mais tu vois dans Monaco ça fait partie du décor.
Oui.
Tu vois, tu t'attends à voir ces trucs là. Alors que là on était avant Monaco et d'un coup tu vois une Bugatti Veyron qui sort.
Truc de ouf.
Et vraiment j'étais là genre puis config magnifique marron métallisé intérieur beige.
Ouf. Ah ouais, j'avoue.
Ouais, le mec a de l'argent et du goût quoi.
Un sommet. Ouais.
Et ça m'a. Et comme quoi c'est fou comme quoi il y a des voitures comme ça même si malheureusement avec les réseaux sociaux on a un peu cette désensibilisation du fait d'avoir l'impression de voir des voitures partout en fait. Avant des voitures tu les voyais pas.
Ouais.
Aujourd'hui tu les vois mais là j'avoue que voir une Veyron ça m'a vraiment fait quelque chose. C'était trop cool. C'était une vraie belle expérience et un beau moment. Puis accessoirement on était il y avait l'Aveyron, les deux GT3, 92 Touring, moi j'étais en passager dans la Touring et la 96 derrière et une Alpine derrière nous.
Cool.
Donc on était en convoi les quatre caisses marron, bon. Gris, rouge, bleu.
Ouais.
Et en vrai, c'était assez cool.
Ah ouais.
Et trois en l'occurrence, parce que le GT3 c'est quand même un peu la même chose quand même, mais trois visions de l'automobile un peu opposées. Deux voitures françaises avec une Veyron et une Alpine l'une derrière l'autre, c'était rigolo.
Putain, j'avoue.
C'était pas mal.
La raison pour laquelle, les mecs, j'ai pas beaucoup de news là, c'est que je bosse très dur sur mon appli, qui va sortir dans à peu près 2 semaines. J'ai rien à vous dire cette semaine, mais j'aurai des nouvelles bientôt. Une nouvelle à partager, c'est que Erwan, tu m'as demandé combien je voulais pour ma 100 HP.
Oui.
tu m'as posé la question hier. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, alors effectivement, j'ai effectivement envoyé un message hier à Alex en lui demandant combien il voulait pour sa 100 HP, parce que tu vas la vendre.
Elle va être à vendre, ouais.
Elle va être à vendre. La raison pour ça, alors du coup, parce qu'il y a plein de gens qui demandent où est la C2 VTS. La C2 VTS, en fait, elle a eu un problème d'alternateur avant que j'aille la voir. Du coup, le temps que le mec s'assure que c'était l'alternateur, commande l'alternateur, pose l'alternateur, refasse le CT, il s'est passé du temps. Techniquement, là, au moment où vous écoutez le podcast, je suis censé aller la voir vendredi. Donc, pour vous qui écoutez le podcast, c'est demain. Sauf que je suis un peu sur un dilemme parce que ça fait une semaine et demie que je roule avec ta 100 HP que tu m'as gentiment prêté en attendant. Et il y a quelque chose que j'avais pas forcé. Il y a deux trucs que j'avais pas anticipé.
Ah.
Déjà là, le fait qu'elle soit rouge, j'adore.
Ouais ouais. J'en voulais une rouge ou rien.
Mais en fait, et je vais te dire pourquoi. Déjà parce que ça me fait rire. Ensuite parce que la voiture est jamais vraiment sale, parce que ça se voit pas quand elle est sale. Et de trois, en fait le capital sympathie qu'a cette voiture auprès des amateurs qui savent ce que c'est, c'est hallucinant.
Ah ouais?
Mais attends, hier, j'avais les essais de la DB12S, donc lundi pour moi, il y a 3 jours pour vous. Et j'arrive avec c'était au Château Lacoste, à côté d'Aix-en-Provence.
C'est par ici, oui.
Domaine viticole sublime. On avait rendez-vous à la Villa Lacoste, donc où t'as un hôtel et un Michelin 3 étoiles quand même. Moi, j'arrive en 100 HP, comme un prince. et je te jure, Dan, le directeur marketing monde, quand même, d'Aston Martin, qui me voit arriver avec ça. Mais non, une 100 HP incroyable.
Et
on est parti dans une tirade, et je te jure, il m'a dit, j'adorerais que tu m'emmènes faire un tour, et il me dit, mais justement, quand les Anglais, ils sont venus essayer les voitures la semaine dernière, parce qu'ils étaient là pendant 10 jours, et t'avais plein de pays différents qui ont envoyé leurs journalistes pour essayer les voitures, etc. On les a justement prévenus, on leur a dit faites attention aux cyclistes et faites attention aux locaux qui sont justement dans des petites voitures comme ça avec des C2, des Yaris, des Pandas 100 HP et qui roulent comme des oiseaux quoi. J'ai dit oui, c'est moi.
C'est ça.
Et ensuite les journalistes arrivent, donc il y avait plusieurs journalistes dont un de mes potes qui s'appelle Jimmy qui habite à côté de Monaco. Il arrive comme ça. Et il arrive avec un autre journaliste qui était journaliste pour Nice Matin et Monaco Matin, deux petits journaux locaux, quoi. Et les deux s'arrêtent devant la 100 HP.
Ah ouais.
Ouais, alors qu'il y avait 3 DB12S garés à côté, tu vois. Et je discute avec Jimmy, je lui dis, alors, c'est vraiment une 100 HP?
J'adore.
Et je te jure, il y a un truc. Énorme. Et en fait, quand tu prends la voiture dans son ensemble, Il y a le côté italien que les gens adorent.
Oui.
Il y a le fait, mine de rien, c'est quand même une voiture qui est très optionnée pour ce que c'est. T'as une boîte 6, t'as un volant multifonction. Non mais c'est des trucs cons, mais la voiture est genre est fondamentalement, c'est vraiment une super caisse.
C'est le mot fondamentalement, c'est-à-dire tous les fondements de la conduite sportive sont très bien assurés.
Oui.
Elle est extrêmement bien née, elle est bien développée.
Ouais.
C'est un benchmark.
Mais vraiment, ça vire à plat, ça freine super bien, t'as zéro inertie. La position de conduite, certes, t'as l'impression de conduire un Fenwick, mais en réalité, mais c'est très agréable. C'est très agréable parce qu'en plus, t'as la, comme dans une Honda Civic, t'as la colonne de direction qui est déportée vers le haut, enfin comme dans un utilitaire, quoi.
Ouais.
Du coup, ce qui fait que t'as moins d'un point, enfin d'une main entre le volant et le levier de vitesse, ce qui fait que c'est extrêmement facile à manier. La boîte de vitesse est vraiment agréable à manier. La position des pédales est top. Tu peux faire un talon pointe.
Ouais.
Les sièges sont très confortables.
Le moteur est extrêmement volontaire pour
peu
qu'il soit au-dessus de 4000 tours.
Alors effectivement, et d'ailleurs j'étais surpris parce que moi j'avais tendance à passer les rapports à 4000, comme je conduis toujours un peu sur le couple,
tu vois.
Et un soir je me suis retrouvé sur une départementale et je me suis dit bah tiens je vais voir ce que ça donne. Et en fait au-dessus de 4000, le truc c'est une Honda.
Ah il se réveille. Hein.
Ah mais ça se réveille puis ça gueule en plus.
Ouais.
Et c'est pas rapide, mais c'est pas lent. Et le moteur est réellement volontaire, il veut y aller, tu vois. Et en fait, quand tu mets tout bout à bout plus le charme, je me trouve un peu con avec ma C2 VTS. Parce que, en fait, ce que j'adore avec la Panda 100 HP, c'est que c'est une voiture qui n'essaie pas d'impressionner, mais qui le fait finalement naturellement parce que les gens savent ce que c'est. Alors que j'ai plus en tête qu'une C2 VTS, c'est un truc un peu niche finalement dont tout le monde se fout et qui a moins cette aura de voiture qui fait sourire.
Elle a pas la même aura, c'est vrai.
En fait, ce que j'aime avec la 100 HP, c'est que c'est une voiture qui fout la banane. Et c'est vrai que c'est important. Alors que la C2 VTS, c'est une C2. Tu vois? Alors que juste le fait que ce soit une Fiat Panda.
Tu sais que tu fais chier parce que tu vas me faire changer d'avis, je vais plus vouloir la vendre.
Bah.
T'es en train de m'exciter, là.
Mais non, mais c'est vrai.
Ça fait deux mois que je l'ai pas conduite.
Et le pire dans tout ça, c'est que, en l'occurrence, la tienne, elle tire à droite à mort.
Ouais.
Les suspensions sont un peu chelous quand même.
Elles
sont bizarres, je trouve, les suspensions, parce qu'elles sont à la fois très souples et très raides.
Je trouve qu'il y a trop de ressorts et pas assez d'amortissement.
Oui. En fait, elles
t'es d'accord?
En fait, t'as l'impression, tu sais, c'est comme si tu mets un poids en haut d'un ressort.
Oui.
Tu sais, la voiture, elle fait douing, 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 comme ça. Et c'est exactement ça. Et le train arrière bouge de manière trop bizarre.
Ah ouais?
Je sais pas, dans l'ensemble, je la trouve.
Bah, en même temps, quand on lit les essais presse d'époque, c'était déjà ce qu'on disait d'elle, c'est-à-dire elle est trop ferme, elle gigote. François Perraudeau, qui en a acheté une, qui est bien connu pour avoir deux McLaren F1, s'il vous plaît.
Il en a quatre depuis.
Ah, pardon.
Je suis en train de retenir. Il a acheté la GTR.
Il vient d'acheter une LM.
C'est vrai qu'il a
une routière, il a une GTR et maintenant une LM, une quatrième, je sais
c'est
pas.
C'est la LM qui a gagné Le Mans.
Non. Il a la numéro 2 des 5.
Non mais
version routière.
Sauf qu'il a, je crois,
dont le Sultan de Brunei, on a acheté 3 des 5.
Oui, et ben la LM, je crois qu'il a acheté l'une des deux qui appartenait à McLaren.
Ouf, elle appartenait à McLaren.
De sources assez sûres, c'est ce que j'ai entendu.
Oh, putain.
Bref,
il a aussi une 250 GTO, s'il vous plaît. Ben il a quand même acheté une 100 HP. Il y a son post Instagram sur sa page Insta que je vous recommande. Fanch, F-A-N-C-H.
Racing, ouais.
Et dedans, il dit que, ouais, en effet, elle gigote trop sur les petites bosses. C'est un peu le seul truc qu'on peut lui reprocher. Il y a Gordon Murray, excusez du peu, qui en a acheté une récemment comme daily parce que ça l'amuse. Il aime bien les voitures légères et communicatives.
Ouais.
Donc oui.
Mais en fait.
Elle a un truc de plus que dans l'inconscient populaire des vrais aficionados de bagnole que C2 VTS n'a pas.
C'est complètement. Et moi j'aime bien le look en fait parce que je la trouve drôle.
Mais oui, on dirait qu'elle sort d'une BD.
C'est ça. Donc en fait pour revenir à l'histoire de quand je t'ai demandé le prix parce que la C2 VTS elle est quand même 1000 euros moins chère que ce que t'en demandes et le truc c'est que je suis quand même fortement à 1000 euros près.
Bah, je peux comprendre.
Et du coup il faut que je me pose cet après-midi pour faire des calculs, mais
faut que t'ailles la voir la C2 VTS.
Oui, faut.
Et carrément, tu vas avec la 100 HP comme ça.
Oui, c'est sûr. Et ouais. Et en fait, le truc, c'est que aussi, je me sens un peu...
Parce que 1000 euros de moins, c'est quand même pas rien en pourcentage. C'est genre 20%, 25% de moins.
Oui. C'est et en ce moment, je suis vraiment à 1000 euros près parce que j'ai tout l'argent qui doit partir dans l'apport pour le fonds de commerce que j'achète. Et on parle d'une somme à 6 chiffres bien, c'est pas 100 000, quoi. C'est beaucoup plus que ça.
Ouais.
On est pas loin du demi-million. Donc, je suis à 1000 euros près.
Ouais.
Tu vois, et donc, faut que je fasse des calculs, parce que c'est vrai que la 100 HP, je trouve ça vraiment drôle, quoi. Alors que la VTS, c'est plus ce truc de niche. Et en même temps, c'est une bonne voiture, fondamentalement, la VTS. Hein. C'est top, hein, c'est reconnu. Puis, il y a 125 chevaux, ça marche quand même plus fort, etc. À voir, faut que j'aille l'essayer.
Ouais, bah va voir vendredi.
Donc voilà.
Bah, j'aimerais bien que tu l'aimes, ma 100 HP.
Bah ça serait rigolo.
Ça serait cool, hein.
Ouais. Mais effectivement, par contre, il faut vraiment régler ce problème de ce truc de direction.
Ah bah c'est prévu.
Parce qu'effectivement, si tu tiens le volant et que tu lâches, la voiture.
La seule raison qu'elle est pas actuellement chez Overdrive en train de réparer, c'est parce que tu l'as.
Exact.
Dès que t'as fini avec, elle va en réparation.
Et je te remercie encore.
Mais je t'en prie.
On passe aux questions.
Si t'as fini avec tes news.
Ouais, moi j'ai fini.
Moi j'ai fini. Allez.
Eh ben vas-y, je te laisse te lancer.
Ok, Philippe Charby. N'arrêtez surtout pas ce podcast, on aime. Merci Philippe. Comment réglez-vous votre position de conduite? Ce réglage des sièges sport BMW qui bascule nettement l'assise pour rester bien calé au fond du siège, vous l'utilisez?
C'est ce qu'il y a de mieux.
Oui.
C'est la meilleure position de conduite, je voudrais savoir.
Ouais, je me souviens, ma E87 130i, elle avait ce truc-là sur ses sièges sport. Et oui, totalement, je l'utilise. J'ai un buste assez long et des petites jambes, malheureusement. Et donc, ouais. Souvent, ce que je fais, Erwan, je sais pas si toi tu fais ça, peut-être. Pour régler ma position de conduite, je vais même plus loin. Il y a plein de voitures sur lesquelles j'ai demandé à mon mécano de retirer les rails de coulissage avant-arrière, parce que comme il y a que moi qui conduis mes voitures typiquement, bah j'ai pas besoin que ça coulisse, et enlever les rails, ça permet de gagner typiquement 3 cm, et je me sens tout de suite beaucoup mieux.
Alors oui, mais moi je peux pas, enfin je ne veux pas et je fais pas ça, parce que moi quand je sors de ma voiture, je recule le siège à fond. Parce que
oui, t'es tout en jambes, toi.
Bah, moi, je suis
l'inverse de moi.
Moi, je suis grand et j'ai des grandes jambes.
Ouais.
Et tu vois, par exemple.
C'est pas ce problème.
Et par exemple, tu vois là. Et en plus, moi, j'aime bien avoir une position de conduite. Avec le dossier légèrement incliné vers l'arrière, parce que je suis pas particulièrement souple. Enfin, bref, je suis grand, quoi. Et donc, j'aime bien être légèrement vers l'arrière, mais en même temps, j'aime bien être assez proche du volant. Donc.
C'est compliqué.
Donc, c'est compliqué. Mmh. Mais du coup, je vais souvent avancer pas mal le siège, quitte à avoir parfois les jambes un peu repliées, parce que il y a un angle entre mes fémurs et mon buste que je dois respecter sinon j'ai mal au dos, quoi. Et par exemple dans la 100 HP, tu vois, j'ai pas la position de conduite au plus bas parce que l'assise est un peu chelou, parce que t'as vraiment que le dossier qui descend et du coup ça te fait une pointe dans le bas du dos.
Par ah
fait. Ouais. Enfin, c'est un truc un peu bizarre, mais tu vois la 100 HP et même ma 968, enfin mon ex 968, dès que je sortais de la voiture, je reculais à fond et je sortais, tu vois.
Ouais.
Et donc.
Putain, j'ai jamais fait ça moi.
Ah si, bah moi sinon je rentre pas et je sors pas dans la voiture,
okay,
je sors pas de la voiture, quoi.
Ouais.
Donc, alors c'est moins le cas sur des voitures plus spacieuses, mais sur des sportives, je suis obligé de le faire. Sinon, je galère pour sortir.
Ouais.
Mais
bon, faut jamais que t'achètes une McLaren F1, toi.
Oh, je suis pas contre. Hein. moi, j'avais une question de Poppy 9650.
J'ai la même.
À l'heure du contenu essentiellement digital, YouTube, magazines web, réseaux sociaux, gardez-vous toujours une place dans vos vies passionnées auto pour les livres, magazines? Retrouver le toucher du papier, l'odeur, consommer de l'information de qualité dans le calme sans être parasité par le téléphone. Et êtes-vous sensible à certains magazines comme Vulcan, Octane, Auto Heroes, Evo, Flatis Mag, etc. Toi?
C'est super intéressant comme question.
Oui.
Tu sais, ça me plonge dans les années 90 quand j'étais adolescent et qu'il y avait les magazines britanniques. Je vivais à Londres à l'époque. Alors d'abord, c'était Performance Car. Ensuite, Fastlane, c'était super. Et bien sûr, Evo, vers la fin. Et c'était comme un rituel chaque mois. Dans les années 90, il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait même pas Internet. Je guettais la date. J'allais parfois la veille chez le journaliste, le vendeur de journaux, pour voir si, par hasard, il n'était pas là un jour avant. Dès qu'il arrivait, j'achetais une barre chocolatée en même temps. Je rentrais chez moi. C'était la vie s'arrête et je lis mon magazine. Et ça me fait comme la chair de poule à y repenser. Il y avait un côté cérémonial et un respect de ce temps. Et je lisais lentement, tu vois, pour profiter de chaque phrase que je buvais. Par exemple, les descriptions des sons des moteurs. Quand il n'y avait pas YouTube, c'était ma seule issue. C'était d'imaginer le son que ça pouvait faire.
Ouais.
Et malheureusement, bah aujourd'hui, j'ai perdu tout ça. J'ai rien de tout ça. Aujourd'hui, je suis abonné à rien du tout. Alors, j'ai adoré Vulcan à un moment, mais je me suis aperçu que je ne prenais pas le temps. Bon, j'ai une vie assez encombrée avec bébé à la maison. Ouais. Je prends plus le temps. J'ai été abonné à Flat 6 Magazine, à RS Magazine. Mais ouais, non, j'ai plus cette case. Ça me rend triste, en fait.
Ben, moi, c'est pareil. Moi, j'ai commencé avec l'Automobile Magazine.
Ouais.
Parce que mon père m'y avait abonné. Ensuite, je suis passé sur Sport Auto. Et c'était effectivement une période où, en fait, il n'y avait que ça.
Ah ouais.
Il y avait que ça, mais très rapidement, quand YouTube est arrivé, alors moi, j'ai jamais regardé les émissions de télé. Parce que chez moi, on regardait jamais la télé.
Quoi, tu veux dire Turbo et
compagnie? Turbo, ouais. Je sais pas quoi d'autre, Automoto, ou je sais pas quoi. Ouais. Même Top Gear à l'ancienne, moi, j'ai découvert Top Gear. Tout le monde, je pense.
Ah ouais.
Enfin, je parle de Top Gear original et originel. Aujourd'hui, je suis abonné à aucun magazine physique. J'ai lu parfois ça m'arrive en fait le truc c'est que moi je suis dans une position un peu particulière où aujourd'hui mon expérience fait que je sais à peu près à quoi m'attendre quand je vois qu'une voiture sort. Et il y a aussi de plus en plus de voitures modernes qui ne m'intéressent pas du tout. Tu vois, genre, et donc j'ai pas forcément envie donc je m'en fous un peu de lire les essais. Je vais tout juste regarder une vidéo d'essai.
Ouais.
Et j'ai aussi la chance de pouvoir faire l'expérience d'énormément de bagnoles. Et donc, à moins que ça soit vraiment, s'il y a une voiture dont j'ai vraiment envie, sur laquelle j'ai envie de me renseigner, en fait, je vais trouver une vidéo. Je vais trouver une vidéo des journalistes que j'aime bien,
ouais.
de Chris Harris, de Hagerty,
Henri Catchpole.
Ce genre de mec. Et en fait, je sais que je vais avoir ce qu'il faut comme info sur l'expérience du truc.
Pareil.
Et même si, ça m'est arrivé quand même récemment d'être à la gare, par exemple, et de m'acheter un sport auto.
Mmh.
Alors déjà, évidemment, c'est pas une critique, mais quand tu vois le prix d'un sport auto aujourd'hui qui coûte genre 7,30€ ou 7,40€.
Ah, ça en est là?
Ouais. Alors que moi, quand j'ai commencé, ça coûtait 4,60€, comme ça. Oui, après, oui. Bon, c'est pas de leur faute, hein. C'est l'inflation, le coût de tout, c'est comme ça. Enfin, faut bien vivre et Dieu sait que c'est pas la presse papier qui a le vent en poupe en ce moment, donc je leur souhaite de rester là parce qu'ils ont quand même un rôle important. Mais c'est vrai que, alors j'ai acheté un sport auto pour me rappeler à quel point les mecs étaient bons dans l'utilisation des mots. Parce qu'effectivement, un sport auto ou un Evo Magazine ou même un Vulcan, ils ont le temps, tu vois, de peser chaque mot qu'ils vont écrire pour donner vraiment l'émotion et faire transmettre les infos qu'ils veulent. Et c'est vrai que j'étais assez impressionné en lisant parce que j'arrivais réellement à me mettre dans l'expérience de conduite en lisant quelque chose. C'est ce qui prouve que les mecs ont effectivement un vrai talent, un vrai savoir-faire et quelque chose d'assez unique. Après,
j'ai une question provocatrice pour toi, Erwan. Ce sport auto que tu vas acheter à la gare.
Ouais.
T'en fais quoi après?
Alors déjà, je le lis pas en entier.
Ouais.
Déjà, je lis les trois articles qui m'intéressent sur les trois voitures qui m'intéressent. Je regarde les annonces, ce qui est probablement le truc que je regarde le
c'est
plus.
Clair, c'est
mais
clair.
Mais moi quand je regardais, tu sais que quand j'étais abonné à l'Automobile Magazine, déjà je lisais pas les essais de voitures normales, je lisais l'unique essai de voiture de sport qu'il y avait dans chaque magazine de l'Automobile Magazine. Et à la fin de l'Automobile Magazine, t'avais un immense tableau avec toutes les voitures actuellement en production, leur motorisation, leur puissance, leur prix. Ouais. Et j'apprenais ça par cœur. Parce que j'étais...
Hashtag autiste.
Hashtag autiste, voilà. On n'a rien contre les autistes, évidemment. Vous comprenez. Non, mais voilà, c'est de l'humour.
Je crois qu'on l'est littéralement un petit peu.
Non, mais vous comprenez dans quel cadre on utilise ça. Même si ça m'emmerde de mettre des guillemets à chaque fois qu'on fait une blague, mais bon, bref.
Non, mais je crois qu'on est littéralement un petit peu autiste.
Il y a l'autisme. Je veux dire, c'est pas normal d'avoir une telle obsession pour des trucs.
L'autisme, c'est, il y a des degrés d'eux.
Oui, voilà, ça. Moi, je sais pas d'où je sors cette capacité à intégrer autant d'informations.
Ah, mais c'est clair, t'as tous les chiffres, c'est ouf.
J'ai tous les chiffres. Ouais. Alors que, quand je rencontre quelqu'un, il faut qu'il me dise 4 fois son prénom avant que je le.
Sociopathe.
Non, complètement. Franchement, c'est pas loin de, voilà, c'est bizarre, quoi, comme caractéristique. Mais, et tu vois, par exemple, les Vulcanes, alors je respecte énormément le travail qui est fait, mais, en lire autant sur une voiture, à titre perso, ça m'emmerde.
Moi, j'aime bien. Plonger dans le détail.
Pas moi.
J'apprends des trucs dans Vulcan. Et pourtant, je connais bien le sujet des bagnoles, mais à chaque fois, j'apprends des trucs.
En fait, alors, j'ai un peu...
C'est geekissime.
Ouais, mais je suis un peu en contradiction avec moi-même par rapport à ça.
Bah oui, ça m'étonne.
Oui, mais je sais. Parce que à la fois j'adore en connaître dans les moindres détails et savoir que la porte a été faite dans un aluminium qui a été tiré de mais d'habitude c'est le genre de truc que j'aime et pourtant c'est pas l'information qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que je vais aimer, j'aime bien quand on m'apprend un truc là-dessus, tu vois. Mais à la fin de la journée ce qui m'intéresse c'est ce que je ressens au volant.
Ouais.
Et donc, je vais occulter un peu cette partie-là. J'aime bien savoir ça.
Ouais.
J'aime bien apprendre des trucs comme ça, mais des petits random facts comme ça. Mais tant que ça n'a pas une incidence absolue sur l'expérience de conduite, je m'en fous un peu.
Ah ben, j'ai un bon exemple. J'ai eu le Vulcan sur la M5E39.
Oui.
J'ai appris un truc de ouf. Figurez-vous, les 8 cylindres du V8, les 8 pistons, pardon, ne sont pas interchangeables, c'est pas le même numéro de série, tu peux pas mettre le piston numéro 1 à la place du 6, pourquoi ? Parce que les contraintes thermiques ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction du placement dans le moteur, et donc c'est un moteur qui est tellement optimisé que les pistons ne sont pas interchangeables. Et ça, c'est le genre de factoïde qui me rend ouf, et j'ai évidemment, on n'apprendra pas ça dans un sport auto.
Non, c'est sûr, non, c'est vrai. Et tu vois, pour le coup, ce que je reproche parfois un peu au sport auto, c'est que je trouve que, évidemment, ils ont un nombre de mots à respecter, un nombre de pages,
bien
etc.
Sûr, bien sûr.
Mais je trouve souvent, moi, je reste souvent un peu sur ma faim, sur les.
Moi, totalement.
Sur les sports auto. Et même sur les articles en général, en fait, je reste sur ma faim parce que j'aimerais, je pense que mon article idéal serait un intermédiaire entre ce qu'on peut trouver dans un sport auto et un Vulcan, tu vois, par exemple.
Ouais.
Mais c'est compliqué et, il y a aussi une réponse un peu bête mais évidente, c'est que malheureusement ce truc-là, donc je montre mon téléphone, prend beaucoup trop de place dans mon existence et que le temps que je prends à me poser devant un livre sans avoir mon téléphone qui m'emmerde est quasiment inexistant.
Alors j'ai remarqué que t'as esquivé ma question un peu provocatrice. Le sport auto que tu achètes en gare, t'en fais quoi après?
Il est posé sur une étagère.
Donc tu le gardes?
Ah oui?
Ah ouais, ok.
Ah, tu t'attendais à ce que j'en fasse quoi?
Bah, poubelle.
Ah non, j'ai jamais jeté un magazine de ma vie, je pense.
Eh bah, tu vois, ça c'est intéressant. Le sport auto, que je peux acheter dans la gare aussi, je le mets à la poubelle après.
Ah ouais?
Ouais. Chose que je serais infichu de mettre un Vulcan à la poubelle. Enfin, c'est sacrilège.
Ah, c'est marrant, ça.
Ouais, poubelle.
Ah ouais, non, pas du tout, moi.
C'est pas par méprise envers leur travail que je dis ça, hein. C'est un fait. Et je suis un peu triste de le dire. Parce que, putain, les Fastlane, les Evo, les Performance Cars en Angleterre, mais j'avais une collection religieuse dont je me suis séparé que récemment. J'ai gardé ça pendant, quoi, 30 ans.
Ben, moi, j'ai tous mes automobiles magazines. Tous mes...
Donc à chaque déménagement, tu dois avoir des valises entières.
Ouais.
Ouais. Okay.
Ouais, mais en fait, ça fait pas. En fait, c'est drôle, mais pour moi, c'est un peu du. En fait, ça me replonge dans des époques. Et de temps en temps, ça m'arrive. Je pense que ça m'arrive alors j'allais dire régulièrement, mais je pense une fois par mois, j'en chope un au hasard. Alors le truc c'est que maintenant je les connais tous par cœur, mais j'aime bien j'aime bien parfois en choper un au hasard et je me pose un peu devant et je le feuillete, tu vois.
Ah, c'est sympa, ouais.
Je le feuillete et je regarde les annonces et je me dis, tu sais, je sais pas, il y a un peu ce truc de se dire, bon, évidemment, on regarde les prix des annonces il y a 15 ans, ça, évidemment, et on pleure. Mais tu sais, parfois, je vois des trucs où je me dis, putain, ça, c'est une niche, c'est intéressant, ça, aujourd'hui, c'est des voitures, on n'en voit plus.
Ouais.
Tu vois, je sais pas, il y a des trucs comme ça, tu vois. J'aime bien relire des sports auto ou des magazines qui portent sur des voitures qui ont marqué une époque pour voir comment l'objet a été traité sur le moment sans peut-être anticiper le culte qui allait suivre ou non sur la voiture.
Mais tellement.
Et tu vois, et ça, c'est intéressant, je trouve.
C'est pour ça, Erwan, que je regrette de pas avoir ma collection, parce que ma collection, elle démarrait fin des années 80. Et par exemple.
Ah, c'est pépite, en plus.
La F40.
Oui.
Moi, j'ai vécu sa sortie en tant que jeune adolescent.
Ça, c'est fou.
Donc,
ça.
Je suis là. Je suis la mémoire de ce podcast. Je suis là pour témoigner les impressions des journalistes à l'époque. À l'époque, c'était le match contre la 959. Eh ben. Croyez-moi ou pas.
Je suis sûr qu'ils ont dit que c'était de la merde.
La F40 était mal reçue.
Ouais,
pourquoi?
Sûr.
C'était perçu comme un exercice d'un cynisme absolu. Parce que voilà une voiture qui se voulait voiture de course parce que complètement dépouillée d'une technologie. Mais c'est même pas le mot technologie qu'on utilise parce qu'elle était assez rétrograde même à sa sortie. Son châssis tubulaire, ça n'apportait rien de nouveau. Il y avait rien de révolutionnaire dans cette voiture. Et en plus, elle était homologuée dans aucune compétition alors qu'elle faisait semblant d'être une voiture de course. Donc non, mal reçue absolument, alors que la 959, elle avançait tous les curseurs.
Ouais.
Donc c'était elle qui était plébiscitée dans les matchs à l'époque.
Mmh. Bah,
aujourd'hui, évidemment, avec le recul historique, on sait tous comment est perçue la F40.
Bien sûr.
Non, parce qu'aussi à l'époque, Enzo Ferrari était vivant.
Ouais.
Donc il y avait pas ce recul de c'était la dernière conçue sous l'ère d'Enzo.
Bah tu vois, moi c'est ça, je trouve ça intéressant.
Et c'est super passionnant
parce
de pouvoir
que,
sortir
que...
ce magazine de c'était quoi en 88 peut-être 87
88,
et de refeuilleter
ouais, je crois.
Les impressions de l'époque, c'est précieux.
Ben c'est justement ça, c'est replonger dans des époques et c'est aussi pour ça, tu vois que. Aujourd'hui, en plus, on a la possibilité de juger et de donner son avis extrêmement rapidement grâce aux réseaux sociaux.
Ouais.
Du coup, on a oublié ce que c'est que de prendre du recul. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on a oublié ce que c'est que de prendre du recul. Mais en réalité, l'histoire, si l'histoire doit se dérouler d'une manière, elle se déroule de cette manière. Et s'il y a, j'arrive pas à balancer ma phrase. Comment je peux dire ça?
Tu veux dire, c'est une sorte de destin
ouais.
Automobile?
En fait, non, mais je veux dire, c'est que, on va souvent juger des événements, des faits, etc., sans le recul, et l'histoire dira, de toute manière, si on les a jugés de la bonne manière ou pas.
Ouais.
Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, aujourd'hui, il y a des voitures que je vois qui m'inspirent rien, mais j'en dis pas grand chose, parce que je me dis, potentiellement, quelque chose d'intéressant.
Ouais.
Tu vois? Et c'est, après, ça veut pas dire que j'ai pas des avis tranchés sur certaines caisses ou sur certaines choses.
Mmh.
Mais après, je pense que c'est plus facile d'avoir des avis tranchés aujourd'hui parce qu'il y a des trucs qui sont résolument merdiques. De manière non dissimulée. Mais bon.
On a l'impression.
On a l'impression, en tout cas. Enfin, voilà.
Tu sais, on tourne depuis longtemps, là. J'ai pas vu l'heure.
Ouais, moi non plus.
Tu voulais en placer une dernière?
Ouais, j'en avais une petite dernière de KL allemand 1368 qui dit question, pourriez-vous comprendre qu'on garde une voiture très longtemps? Par exemple, moi j'ai acheté une caisse daily que j'adore et qui finalement me sert même pas de daily, je l'ai depuis 8 ans et je la changerai que quand elle aura un minimum un moteur ou une boîte morte. C'est une vénérable Fiat Punto Evo 1 litre 4 turbo qui fait 134 chevaux, 135 chevaux et qui a 218 000 km pour info. Je pense qu'il dit ça parce que nous on a la bougeotte niveau bagnole.
Ouais, nickel. Putain, c'est intéressant la question.
Mais en fait, enfin, moi, quand j'ai annoncé que je vendais à 968, j'ai vu des commentaires qui m'ont fait sauter au plafond, quoi. Des mecs qui me...
Oui.
Non, mais ça m'a énervé.
J'ai vu.
Des mecs qui disaient, putain, mais on a vraiment pas la même définition de la passion, au final, tu t'achètes une caisse, tu nous la vends comme, c'est ce que disait un commentaire. Le commentaire disait, putain, à chaque fois c'est la même chose, tu nous vends une voiture comme si c'était ta Madeleine de Proust et un an plus tard elle est partie. Et,
Sauf que en 12 mois, t'as fait quoi avec?
22 000 kilomètres, ouais. 9 pays, 3 track days, 20 tours au Nürburgring.
C'est pas mal.
Non, mais c'est, en fait, bon, je mets de côté le commentaire qui est pour moi, qui est d'une étroitesse d'esprit absolue. Parce que de toute manière, on prend des décisions dans la vie, quelles qu'elles soient, en fonction des informations qu'on a sur le moment.
Oui.
Donc, lui, il pose ce commentaire en étant embourbé dans son prisme extrêmement étroit. Alors qu'il, vous voyez, je monte en pression, ça m'énerve.
Ah, t'es vénère.
Non, mais ça m'a rendu taré comme. En fait, ça m'a rendu taré parce que c'est un jeu. Il y avait un vrai jugement de valeur.
Oui.
T'es pas passionné.
Mais le mec, il est 16 ans. Tu nous vends du rêve. Il vit chez sa maman.
Mais non, mais ensuite, le mec, j'ai répondu gentiment et le mec m'explique, bah ouais, mais moi, en fait, il y a 6 ans, je suis tombé amoureux de la Seat Leon Cupra et je l'ai jamais vendue depuis. Restons-en là.
On va pas commenter.
Mais en fait. En fait, ma réponse va être très simple. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de garder une voiture 20 ans parce que vous l'aimez, gardez votre voiture 20 ans parce que vous l'aimez. Si vous avez envie de changer au bout de 3 mois parce que vous avez envie de changer au bout de 3 mois. Pardon, mais j'en ai rien à foutre de ce que vous faites. Et je dis ça parce que je suis en train de redescendre en pression, mais on s'en fout.
Ouais.
On s'en fout. Faites ce qui vous fait plaisir. Arrêtez de faire par rapport aux autres, etc. Et je sais très bien que je dis ça dans le vent, parce que chacun, voilà, fait sa vie. Mais le plaisir automobile et la passion ne devraient pas être attachés à quelque chose de comptable. Il faut pas justifier d'être passionné parce que t'as gardé ta voiture 10 ans. Mmh. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Le niveau de passion ne devrait pas être associé à un temps ou à un temps de possession ou à un nombre de kilomètres ou à est-ce que tu la roules sous la pluie ou pas.
Et pourtant, si je te challenge, dans un épisode récent, on a parlé de l'enrichissement culturel automobile que ça fait de diversifier les expériences.
Oui.
Et donc, pour beaucoup de personnes, ça veut dire changer avec une certaine régularité leur voiture.
Mmh.
Parce qu'ils n'ont pas accès à un parc de voitures comme toi ou un journaliste peut l'avoir.
Oui. Bah du coup ça va.
Donc il y aurait du positif à changer régulièrement de voiture.
Bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui ont envie de garder la même 911 depuis 20 ans et moi après c'est toujours pareil, c'est moi ce que j'aime c'est de faire l'expérience de plein de voitures différentes et parce que ça fait quand même pas longtemps que je fais l'expérience d'acheter des voitures, ça fait 4 ans à tout péter.
Mmh.
Donc c'est quand même très court mais moi j'ai la chance via mon activité de les utiliser à fond. Donc en fait, souvent quand je regarde les petites annonces, je vois des mecs qui disent bah ouais, je l'ai depuis 4 ans et je m'en sépare parce qu'en fait je l'ai pas roulé. Pour moi, c'est inconcevable.
Ouais.
C'est inconcevable. Et après, je sais très bien que la vie, fait qu'il y a des gens qui ont des jobs prenants, il y a mille et une raisons de faire que il y a des gens qui conduisent peu leur voiture, d'autres beaucoup. Voilà, chacun son truc. Mais en l'occurrence, pour moi, une voiture, c'est fait pour rouler. Je gagne de l'argent pour en dépenser, pour avoir des expériences en bagnole. C'est comme ça que je fais mon truc.
Mm.
Et si j'ai envie, et tu vois, genre, quand j'ai vendu ma voiture, j'ai zéro regret. La voiture ne me manque pas.
Ouais.
Enfin, moi, elle est partie, je suis revenu, elle était plus là. Et puis, fin de l'histoire.
Mm.
Et, voilà, sans plus. Et tu vois, j'ai quand même maintenant en tête un peu mon garage un peu, infini dans le temps. Et je sais qu'il y a des émotions que je ressens au volant de certaines voitures, notamment que j'ai citées, Aston Martin, Caterham. Mm. Je sais que c'est des trucs que je ressentirai toujours. Et si un jour, je ressens plus ces émotions, je les vendrai.
Ouais.
Et fin. Et c'est tout.
Mm.
Donc, voilà, pour répondre à la question.
De mon côté, je change assez régulièrement. En effet, j'ai remarqué, j'ai une tendance, c'est pas une tendance, c'est une compulsion addictive à acheter des voitures et donc à en vendre parce que j'ai des moyens limités et c'est faire les annonces, c'est aller faire les inspections, c'est la ramener par la route d'un pays lointain, c'est tout ça qui me fait vibrer. Maintenant, c'est aussi des changements de circonstances qui peuvent me faire changer de voiiture. La Panda 100 HP, c'est un bon exemple. C'était parfait à Paris.
Mmh.
Ici, je m'aperçois que j'ai la chance. Quand je viens au coworking le matin, je suis sur des routes de rêve. Et donc, j'ai envie de profiter de quelque chose qui soit plus musical. j'ai moins besoin du petit trip de la citadine compacte. Et ouais, dès que mon profil d'utilisation change, j'ai remarqué que mon parc automobile évolue.
Ouais, voilà. Je comprends. Ben ouais. Faut qu'on s'arrête là, je crois.
si vous êtes encore là, bravo à vous. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Ciao.
Merci à tous. Merci à tous, pardon. Ciao.